Nous sommes lundi 14 novembre et vous écoutez un dossier Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de l'actualité du jeu de société.
Salut Jérémy.
Salut Olivier.
Salut à toutes.
Salut à tous. Et aujourd'hui, Jérémy, on a décidé de faire un geek d'achat pour nos auditeurs. Alors ça va, j'espère qu'on va vous aider à trouver des idées de cadeaux pour Noël. Parce qu'on parle de beaucoup de choses, c'est parfois un petit peu pointu. Et là, on va âge par âge, vous donner un petit peu notre...
Ce que moi j'offrirais en tout cas à des enfants de tel âge, à des ados, etc.
Tout à fait. Donc d'abord les enfants, ensuite les ados. J'ai marqué nos parents, mais ça peut être aussi pour des non-joueurs. Et puis après pour les passionnés. Ce qu'il en faut aussi pour les passionnés, même si on distille numéro après numéro des conseils avisés.
Ouais, on vous donne de quoi acheter 3 à 4 jeux par quinzaine. C'est pas mal déjà, si vous suivez le rythme.
Ouais. Donc, on y va. On commence par les enfants.
Allez.
Alors les enfants, plus jeunes. On rappelle qu'on a fait il y a quelques semaines, quelques mois, un très beau dossier, il faut faire jouer les enfants. Donc on va peut-être être un petit peu plus succinct que le...
Ouais, on va résumer chaque grand classique par tranche d'âge.
Ouais, on va essayer d'aller à l'essentiel.
Ça va en faire quand même 5 ou 6 facilement.
Voilà. Tu commences ?
Alors j'attaque.
Allez, vas-y, attaque.
Alors... On commence par le jeu le plus simple qu'un enfant de entre 1 an et demi et 2 ans est capable de maîtriser, ça va être le loto. Le loto, tout le monde le connaît, c'est tout simple. Et ça permet déjà à l'enfant d'apprendre plein de choses, d'apprendre toutes les bases du jeu. Alors le loto, c'est, tu sais, on pioche dans un sac un animal et puis si tu l'as sur ta grille, oh, tu ne peux pas sur ta grille.
D'accord.
Ouais, quand je parle de loto, oui, hein, je parle d'une version simple, hein, le loto des animaux ou un loto, je sais pas quoi, personnage Disney ou ce que vous voulez. Mais effectivement, pas le loto avec le bingo, là, avec les chiffres. Hein. Ils sont à 18 mois, ils n'y arriveront pas.
Ça, c'est les fondamentaux. On apprend...
On apprend les bases du jeu à pas 2 ans.
À ne pas tricher, voilà. À ne pas arrêter encore de partie et tout ça.
Ouais, on en est déjà là, hein, à ne pas arrêter encore de partie et attendre son tour. Oui. Ensuite, il y a le verger.
Oui. Alors,
tu peux en parler un petit peu, Olivier.
Oui, un classique. Je suis pas tiré à côté de... J'ai 3 enfants, les 2 premiers, je suis passé à côté, je m'en mords le doigt. Enfin, maintenant, ils y reviennent puisque j'ai ramené ça des scènes. Donc, le verger, l'histoire est simple. Les enfants vont devoir cueillir des fruits. Il y a 10 fruits par arbre. Il y a 4 arbres sur le plateau avant que le corbeau n'arrive et ne mange les fruits. Donc, le corbeau est représenté par un puzzle. On lance un dé, 4 faces sur le dé, 4 couleurs pour chaque fruit. Une couleur pour un panier qui va nous permettre de récupérer 2 fruits et non plus 1. Et une phase corbeau. Quand on fait la phase corbeau, on met une pièce sur le puzzle. Quand le puzzle est fini, on a perdu.
Il n'y a que 9 pièces sur le puzzle.
Oui. Donc c'est un jeu coopératif. C'est un jeu pour l'apprentissage des couleurs aussi. Je jette le dé, ouais. je prends la couleur qui correspond. Puis il y a un petit truc aussi, c'est le panier.
Ah, il y a le panier, mais ça, les enfants, ils perçoivent pas la subtilité.
Justement.
Des 2 fruits à prendre, effectivement. Ils prennent ceux qu'ils ont envie et pas forcément ceux qu'il faudrait.
Le verger, c'est chez Abba. C'est une trentaine d'euros, je dirais.
Une trentaine d'euros pour 2 à 4 joueurs, voilà, à partir de 3 ans.
À partir de 3 ans. Un peu plus tard, on va commencer les mémories. Enfin, même, c'est pas un peu plus tard, on peut dès ce moment-là commencer les mémories.
Ouais, il faut commencer soft, mais ouais.
Et le plus joli des mémories, c'est.
Il y en a 2.
Oh mince.
Alors, ça dépend. Si on les fait dans l'ordre chronologique, il vaut mieux faire Turlututu d'abord.
Oh ouais, c'est pas le plus joli.
C'est pas le plus joli, voilà, c'est pour ça. Et après, il y a Pique-Plume.
Ouais, alors Turlututu, c'est une course de sorcière à chapeau caché.
Voilà, on cache en fait des pions de couleur sous des chapeaux. On lance le dé, il faut retrouver la sorcière de la couleur montrée par le dé. Donc par exemple, la sorcière rouge, la sorcière verte. Il suffit de lever le chapeau et si c'est bon, elle avance d'une case. Celui qui amène la sorcière sur la dernière case a gagné. Donc n'importe qui peut gagner, en fait, pas forcément celui qui a le plus de mémoire.
Oui, moi je le joue plutôt coopératif, c'est-à-dire que quand j'y joue, ça va avec le verger. Donc même Âge avec le petit qui a 3 ans. Et en fait, l'idée, c'est de faire avancer les sorcières. C'est pas forcément, il n'y a pas de notion de...
D'accord. Ouais. Donc, Tutu, c'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 4 ans chez Gigamic pour une 20aine d'euros.
Ouais, c'est pas celui-là que je pensais, moi, quand j'ai commencé à parler de Memory. C'était plutôt à Picplume.
Ouais, alors Picplume, c'est un classique qui a au moins 15 ans. Donc, le principe, c'est pareil, c'est un Memory. On place des poules sur un parcours. Sur le parcours, chaque case a une illustration. Et en fait, pour faire avancer sa poule sur la case devant elle, il faut retrouver, parmi les cartes qui sont placées au centre de la table, celle qui a la même illustration que la case. Si on a trouvé, on avance, et en plus, on rejoue. Et si, comme ça, au fur et à mesure qu'on avance, on double la poule d'un adversaire, on lui pique toutes ses plumes qu'elle a pu collecter.
Toutes.
Toutes. Bon, c'est facile, hein, elles ont eu toutes une plume au début. Et le premier qui a collecté toutes les plumes de tous les joueurs a gagné.
Le matériel est super sympa avec... c'est des hexagones, les tuiles du milieu.
Ouais, les tuiles du milieu, c'est les hexagones ou les octogones.
Et puis, c'est des sortes d'œufs.
C'est des sortes d'œufs, les cases. Donc, en plus, ce qui est très intéressant, c'est que le plateau, il est modulable. En fonction de l'âge de l'enfant, on peut mettre plus ou moins de cases.
On peut raccourcir.
Ouais,
par exemple,
au début, je jouais pas avec tout. Je mettais moins de 10, j'en mettais 8, je crois, seulement.
Ouais, tu diminues le nombre de
Ouais, t'en mets moins, t'en mets 6. T'en mets... Bon, évidemment, pour toi, c'est plus facile. Mais pour l'enfant, enfin, il faut faire semblant, quoi.
Pour moi, c'est plus facile. Yeah, c'est pas dit, mais ça, c'est autre chose. Donc, Picplume, et puis le plaisir aussi, c'est les petites poules en bois.
Ouais.
Elles sont toutes jolies, elles sont toutes mignonnes. Très résistantes, les plumes. J'en ai fait l'expérience.
Comment ça ?
Et tu voulais dire ? Non, elles se cassent pas facilement.
Ah non. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, le jeu, donc, il est donné pour partir de 5 ans.
4. Mais...
4 ans même.
Ouais,
de toute façon, ouais, moi, j'allais dire que vu qu'on peut moduler la difficulté, il n'y a pas de problème. Et le truc, c'est que les enfants, même après, vers 7-8 ans, ils y jouent encore, hein, avec plaisir, parce que c'est un memory. Et là, autant à 4 ans, bon, normalement, si on fait bien attention et qu'on leur épargne rien, les enfants ne vont pas gagner souvent.
Plus tard,
à 7-8 ans, c'est le premier qui fait l'erreur qui a perdu, hein, que ce soit le gamin ou le parent. Ça pardonne pas. Donc en tout cas, c'est un jeu qui en plus est un investissement parce que, enfin, je veux dire sur le long terme, contrairement à d'autres jeux qui au bout d'un moment vont plus sortir, Picplume, ça sortira toujours.
Picplume, c'est de 2 à 4 joueurs chez Gigamic à partir de 4 ans et pour à peu près 15 à 20 minutes. Et pour une 30aine d'euros.
À noter une variante qui s'appelle Pic Prune, qui est une boîte un peu plus petite, un matériel un peu moins volumineux, etc. et qui du coup est vendue à seulement 20 euros.
A priori... Oui, mais t'as pas le plaisir de la petite poule en bois. Et des vraies plumes en bois. En vraie plume de bois.
En plume de bois, ouais, voilà, c'est ça. Bah oui, Picprune, mais c'est une version un peu budget, on va dire, mais c'est toujours bon à savoir que ça existe.
Ensuite, pour les enfants un petit peu plus âgés, on arrive chez Dreimagerspiele.
Ah oui.
Avec...
l'escalier hanté.
Et puis le petit bois hanté également.
Et le petit bois hanté, ouais. Bah, si on doit en garder un, c'est l'escalier hanté.
Tout à fait.
D'ailleurs, c'est Dreimagerspiele, c'est distribué aussi par Gigamic en France, il me semble. Et donc, c'est un jeu aussi de mémoire, enfin en partie de mémoire, mais c'est aussi un jeu de parcours. Donc, en fait, c'est des petits bonhommes qui vont devoir monter un escalier. Les joueurs lancent le dé. Donc, le dé, il peut avancer. Ensuite, on avance son pion. On peut avancer de 1 à 4 cases. Et puis, il y a deux faces qui sont des fantômes. Donc, quand c'est le fantôme, on doit au début les pions, on les cache sous les fantômes. Et après, quand tout le monde est caché sous les fantômes, on échange deux pions fantômes, en fait, quand on sort le fantôme sur le dé. Et du coup, les joueurs doivent se rappeler où est-ce qu'ils sont.
Oui, il y a une partie de bluff, il y a une partie...
Ah ouais, non, mais...
C'est un peu plus compliqué, parce que c'est
des moments. Il y a des parties où tu échanges tellement les fantômes que même adulte, tu ne sais plus qui est où, quoi.
Je valide.
Voilà, et alors, il y a une variante, parce que pour ceux qui trouveraient que c'est léger... Sachez qu'il y a une variante, je ne m'y suis même pas essayé parce que déjà c'est déjà embrouillé des fois juste en faisant ça.
Normalement,
chaque joueur devant lui il a un pion qui indique la couleur de son. Enfin, il a un jeton en fait qui indique la couleur de son pion sur le plateau.
C'est ça.
Et quand on tire fantôme, on peut choisir, au lieu de déplacer deux fantômes sur le plateau, on peut choisir d'échanger deux pions de couleur entre deux joueurs. Donc, ce qui veut dire qu'il faut dans ces cas-là se rappeler des quatre fantômes effectivement.
Donc, si tu dis je suis vert, je suis rose, non,
et
je suis rose.
Et tu sais plus où il est. Donc, à la fin, t'avances n'importe qui et gagne qui pourra. Ça marche très très bien. Pareil, c'est un jeu, c'est increvable. C'est à partir de 5 ans, mais les gamins.
5-6 ans,
enfin,
ouais.
Ouais, mais ça se joue encore. Enfin, nous on y joue encore. C'est
oui,
c'est un des rares jeux que j'ai acheté neuf. C'est-à-dire, je veux dire, j'ai pas acheté d'occasion. et dont la boîte est dans un état plus abîmé que certains jeux que j'ai achetés d'occasion à Eisen. Tellement il sert.
Ouais, et puis t'as même une extension avec une petite bouteille.
Oui, je l'ai.
Où tu emprisonnes un des fantômes dans la bouteille.
Mmh. Et tu peux jouer à 6 joueurs en plus. Voilà. C'est bien, l'extension c'est très bien, mais jouez déjà avec le jeu de base. Et voyez pour l'extension après. Donc l'escalier hanté, 2 à 4 joueurs, à partir de 5 ans, pour une trentaine d'euros.
Alors moi j'ai une tendresse particulière pour un jeu de Frédéric Meyerson qui est Cache Mouton. Là, j'ai un de mes gamins qui me reproche souvent de faire des jeux de parcours. Il n'a pas envie trop d'avoir une confrontation avec une comparaison avec ses frères. Et c'est effectivement très souvent qu'on a des jeux de parcours, ou les jeux de course en fait.
La preuve, c'est qu'on a énuméré, ouais, voilà.
C'est la confrontation directe. Et Cache Mouton, c'est complètement différent. C'est un petit jeu de rôle. Donc le principe de Cache-Mouton est simple, l'un des joueurs va prendre le rôle du loup, les autres joueurs vont avoir des petits moutons en bois, et ils vont devoir se cacher derrière du mobilier. Alors on a une horloge comptoise, on a un lit, on a une...
Ouais, précisons que le mobilier c'est du matériel qui est dans la boîte et pas le mobilier de la maison.
Tout à fait.
Parce que l'horloge comptoise chez soi, tout le monde n'en a pas.
C'est ça, donc en fait, y a des petits, des petites boîtes en carton fort qui représentent une armoire, un lit, on a une porte, des choses comme ça. Et en fait, les agneaux vont se cacher. Et le loup va devoir soulever un ou deux pièces de mobilier. Et en fonction de s'il y a un agneau derrière ou pas, il va pouvoir les manger. Sachant que si les agneaux se planquent sous la bassine, ou dans l'horloge, je ne sais plus, ils peuvent libérer les autres agneaux, donc il y a une petite partie un peu tactique. C'est très très fun. On arrive à faire « Oh, je vais manger les agneaux !» Donc ils se mettent à rigoler, ça c'est vraiment super. Enfin, ça marche avec mes gamins comme ça. Donc,
et puis après, les gamins, à cet âge-là, ce qui est bien, c'est qu'ils regardent l'endroit où ils ont caché leur mouton.
C'est ça.
Donc, si on veut.
Mais parfois, ils essaient de bluffer.
Ouais, ils essaient.
Ça, c'est marrant.
Mais pas les premières parties.
C'est bon. C'est l'As d'or, jeu de l'année pour les enfants à Cannes en 2010. C'est vraiment super sympa.
Et puis la réalisation est parfaite. Non ?
Ouais.
Tout à fait. Ça marche bien.
Donc, la partie dure une quinzaine de minutes. Pour 2 à 6 joueurs, à partir de 4 ans, c'est encore une fois chez Gigamic. Et puis ça coûte 30-35 euros. Ça coûte un petit peu plus cher parce que la boîte est comme celle de Picplume en fait.
Non, ça coûte 30 euros.
Une trentaine d'euros.
Bon, et puis moi, il y a aussi un jeu qui me tient particulièrement à cœur, qui est fait pour les enfants à partir de 6 ans. En sachant qu'un enfant de 5 ans, s'il est accompagné, pourra y jouer également.
Dominion ?
Sur les plus grands, ouais. Alors carrément, ouais, c'est Dominion. Non, Acquire. Non. il s'agit d'un jeu qui est sorti en français il y a un ou deux ans, et surtout l'année dernière, en fait, ils ont fait un carton à Noël. C'est Qui l'a vu ? Un jeu de Rainer Knizia, donc un jeu électronique. Alors en fait, y a le petit pitch, c'est que dans un château... il y a une bague qui permet d'éloigner le grand sorcier qui a disparu.
Ouh.
Et le grand sorcier du coup sera là dans 6 heures. Et tous les adultes sont partis chercher le sorcier dans la campagne, etc. Alors que les enfants, qui eux sont restés au château, pensent que c'est dans le château. Et donc ils vont mener l'enquête dans le château en interrogeant les animaux. Parce que seuls les enfants, évidemment, c'est connu, peuvent discuter avec les animaux. Donc les joueurs jouent donc les pions enfants sur le plateau. Il y a plusieurs salles. Dans chaque salle, il y a un animal. Et dans une salle, on va pouvoir parler avec l'animal, où on va pouvoir également chercher dans la pièce. Ce qu'on va trouver, c'est des aliments, et ensuite il va falloir trouver à quel animal il faut lui donner. Donc par exemple, on va voir le serpent, et le serpent il dit que lui il veut manger du fromage. Donc si plus tard on trouve le fromage, il va falloir revenir dans la salle et lui donner le fromage. Et quand on lui donne le fromage, il donne un indice.
C'est un jeu de déduction ?
Ouais, c'est un jeu de déduction. En fait, il y a 10 suspects, et il nous dit le suspect était un homme. Donc dans ces cas-là, et donc en général, on peut éliminer 2 à 3 suspects.
On te dit il a une moustache, il a des
lunettes. Non, on n'est pas qui est-ce comme ça. Non, après il nous dit il avait des bottes ou bien il était,
c'est pas
grand, il était mince. Donc excepté un 10, on arrive à savoir. Et il y a 3 niveaux de difficulté qui fait qu'on va devoir aller dans plus ou moins de pièces, etc. Et il y a un temps, en fait, comme ça se joue en 6 heures, il y a vraiment au fur et à mesure des tours on avance, il y a également des sons de cloche qui retentissent dans le jeu pour nous dire attention, on approche des 6 heures. Et vous pouvez perdre la partie si vous vous dépêchez pas.
Donc c'est un jeu électronique. Enfin, le temps qui passe est géré par l'électronique.
Ouais, alors c'est pas du temps réel, c'est pas 15 minutes, c'est juste un nombre de tours en fait précalculé quoi. C'est
alors ça veut dire, enfin,
c'est un nombre de tours qui est limité en fait. Mais toi, je sais pas combien il y en a réellement.
Non, ce que je veux dire, c'est si tu joues vite, tu peux en fonction des parties, si tu joues plus vite ou moins
pas.
Vite.
Non, c'est ça qui change pas. En fait, chaque fois que tu vas à la fin de ton tour, tu lances le dé, tu te déplaces un certain nombre de cases, donc de salles. Quand tu arrives dans une salle, tu dois faire une action. Si c'est obligatoirement, tu dois faire une action. Ah. Donc le fait de faire une action, ça montre que tu as joué un tour. Et lui, il enregistre, et donc du coup, tu.
Oui, parce qu'il y a un espèce de boîtier, et quand tu appuies
sur les touches.
La touche du boîtier, ça t'enregistre ton tour. Okay.
Donc voilà. Et donc ça marche très très bien. Les enfants peuvent même jouer tout seuls. Ça dure quand même entre 20 et 30 minutes. Hein. Enfin, forcément, c'est un petit jeu de déduction. Il faut quand même prendre le temps. Il faut commencer en mode facile, et puis maintenant, nous, on le joue en mode difficile. C'est un jeu que j'aime beaucoup, qui peut jouer en famille, et les adultes, on ne s'ennuie pas.
Donc là, tu dis on peut jouer. Vous êtes deux enfants, 5 ans et 7 ans.
Ouais.
Donc, qui l'a vu, 5 ans, 7 ans.
Ouais, ça marche sans problème. Vraiment, enfin, comme je dis, l'enfant de 5 ans, il faut le coacher un petit peu au début, mais au bout de quelques parties, il n'y a pas de problème.
Il est autonome.
Il va savoir jouer. Le seul défaut du jeu, c'est qu'il manque un. Voilà, il manque une aide de jeu. Il manque quelque chose pour.
Il faut savoir qui est-ce que tu as vu et.
Ouais, et qui mange quoi, parce que ça change, bien sûr, à chaque partie. Donc, heureusement. Il existe une aide de jeu sur internet, on vous mettra le lien depuis le site. Et donc c'est une matrice qui permet effectivement de bien savoir qui veut quoi, etc. De cocher où sont les objets magiques, etc.
C'est sur quel site?
C'est sur jeuxa2.com.
D'accord, jeuxa2, c'est rigolo. C'est pas un jeu à deux qui l'a vu?
Non, ça doit être un webmaster qui aime jouer avec ses enfants.
Donc qui l'a vu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 6 ans, une grosse demi-heure. C'est chez Ravensburger, ça coûte à peu près 25€ en ce moment, mais méfiez-vous parce que les tarifs varient.
Et à noter aussi dans la collection, il y a eu Où va-t-il qui est sorti, donc dans la même gamme, donc jeu électronique, pareil avec un boîtier. C'est Roberto Fraga cette fois-ci qui est derrière. A priori, c'est un peu le même concept, hein, on cherche un voleur, donc on va aller interroger plein d'animaux, etc. Je ne l'ai pas testé encore, il est prêt pour le Noël des enfants.
Aussi.
On vous dit ça en janvier.
Oui, alors moi je vous avais tweeté que Ravensburger faisait une promo avec deux jeux achetés. Le moins cher des deux était à 1€. Mm. Moi j'en ai profité, je les ai reçus. Et puis alors, ils sont là. J'attends. Je me dis, je vais y jouer. En fait, non, c'est moi qui devrais attendre le 24 décembre.
Ça va, il ne reste plus qu'un mois.
Un peu plus. Donc pour résumer, pour les plus petits, un loto. Le verger, pour apprendre la coopération, les couleurs. Pique-plume pour la mémoire, sur le tutu. L'escalier hanté, jeu de parcours un peu plus pour les 6-7 ans. Et puis, qui l'a vu, où va-t-il ? On passe... aux jeux familiaux.
Ouais, voilà. J'avais proposé quand même, pendant qu'on est avec les enfants, on peut passer au mode.
Ouais, alors moi, j'ai une transition en fait pour le jeu familiaux. Si vous avez été à Essen ou si vous vous intéressez aux sorties d'Essen, vous n'avez pas pu passer à côté de Perplexus. La boule Perplexus, c'est un objet, on va dire, ludique qui existe en trois tailles. La première, c'est Rookie, donc pour les débutants. Ensuite, on a la taille originale et puis après, on a la taille épique. Elles sont vraiment plus grosses, de plus en plus grosses, et elles sont vraiment de beaucoup plus compliquées à mesure qu'on avance dans la maîtrise de cet engin.
Mais en France, il y a que la version originale qui est distribuée. C'est finalement un bon choix.
Ouais. Ouais, et puis il y a suffisamment à faire. Donc si Perplexus, c'est un objet qui attire la main. On a envie, quand on le voit posé sur un meuble, de l'apprendre si on a 2 minutes... On y va, on commence le parcours et puis ça nous prend...
Ça ne me mettrait qu'un palantir.
Tu penses sur
un hobbit, hein ?
C'est ça. on peut dire ça comme ça. Voilà, donc Perplexus original, l'idée c'est d'aller au bout du parcours. Il y a des escaliers, il y a des virages qui n'ont pas de barrière, donc des fois on se laisse prendre. Il y a des petits tubes dans lesquels il faut passer. Il y a des choses qui sont vraiment... C'est super bien fait. C'est très addictif et ça marche pour les petits. Alors pour l'original, peut-être à partir de 6 ans, faut pas qu'il soit trop petit quand même, mais ça marche pour tout le monde. Et puis vos parents seront contents aussi de cet objet.
Ça prend de la place sur le buffet quand même. Hein.
Oui, mais ça n'est pas grave. Donc Perplexus, c'est 25€ et c'est chez Yellow. Donc en famille, à quoi on va jouer ce Noël ?
Ben, on a déjà parlé de qui l'a vu en fait, l'air de rien, c'était déjà un début de transition. Moi j'ai noté ton jeu favori.
Ah bah je vais en parler alors.
Bah vas-y.
L'île interdite ?
Bah oui.
L'île interdite, c'est le jeu, le pouli d'or en fait des jeux de société cette année. C'est-à-dire tant de fois nominé et si peu premier.
Tant de fois recalé.
C'est ça. Mais cette année, face à ce Venom d'or, il n'y avait pas grand-chose qui résistait. Donc ils ont été quand même nominés au Spiel des Jahres en 2011. Ils étaient, il y a le jeu, la section de jeux Mensa, qu'ils ont quand même gagné en 2010. Board Game Geek, Golden Geek, Best Children's Game, donc meilleur jeu des enfants, Board Game Geek en 2010. Et puis cette année, quand même, Juego del Año en España, c'est le vainqueur du jeu de l'année en Espagne. Enfin, tout ça pour dire que c'est un excellent jeu.
Coopératif.
Coopératif, à partir de 8 ans, mais étant donné que c'est coopératif, vous pouvez le sortir à partir de 6 ans et demi, 7 ans.
Ouais, il faut les accompagner pour les premières parties, c'est toujours pareil, après ils savent faire.
Ça se joue de 2 à 4 joueurs, et il faut une grosse demi-heure, 3 quarts d'heure. Si vous connaissez Pandémie, vous ne serez pas dépaysé, puisque l'auteur est Matt Leacock. C'est un jeu qui est édité par Cocktail Games dans une belle petite boîte en métal. Et donc, le but du jeu, c'est, alors que l'île sur laquelle vous êtes s'effondre peu à peu dans les flots, de pouvoir récupérer des trésors. L'idée, c'est que pour récupérer des trésors, il faut 4 cartes identiques représentant ce trésor, et qu'on ne peut avoir que 6 ou 7 cartes en main. Donc, il va falloir faire des choix, puisqu'il va falloir faire des suites, et aller chercher ces trésors. Et on a la possibilité d'assécher en fait, des tuiles. Donc, il y a 4 états en fait pour la tuile. Elle va être sèche, elle va être inondée.
Anti-sèche.
Et puis après, elle sera archi sèche. Non, elle sera complètement inondée. Donc, elle va disparaître dans les flots. Donc, il y a une gestion de notre chemin à faire, parce qu'il faut toujours pouvoir aller échanger ses cartes contre des trésors. C'est pas hyper compliqué, c'est beaucoup plus simple que Pandémie. C'est-à-dire que ça reprend exactement les mêmes mécanismes avec des personnages qui auront chacun leur propre capacité. Tu vas avoir un des personnages qui va pouvoir assécher plusieurs tuiles et pas qu'une seule. Tu vas avoir un nageur qui lui va pouvoir passer une tuile qui a disparu. Tu vas avoir un pilote qui va pouvoir aller d'une tuile à l'autre. Enfin, c'est très simple. On a une tension qui est rigolote. Et puis ça permet, c'est une sorte de Gateway Games qui permet d'aller un peu plus loin, et puis quand on est habitué au tour, au système d'action, puisqu'on retrouve aussi le système de points d'action qu'on a dans Pandémie, ça permet d'aller un peu plus loin, et donc pour la famille c'est bien. L'île interdite, 2 à 4 joueurs, 30 minutes à partir de 8 ans, et c'est chez Cocktail Games.
8 ans. Sur la boîte c'est 10.
Mais
tu donnes 8.
Ouais. CM1, CM2, aucun problème. Aucun problème. Enfin, CM1, c'est peut-être CE2, CM1, 8 ans. Mais non, mais enfin, à partir du moment où tu vas pas faire jouer des enfants de 8 ans ensemble, sans adultes. C'est un jeu familial, c'est pas un jeu pour les enfants. Autant l'escalier hanté, tu peux les lancer dessus et puis après tu t'en vas. Autant là, c'est pas forcément possible parce qu'il y a des choix à faire, et ce qui est intéressant, c'est justement le dialogue que tu vas pouvoir engager avec tes enfants. Et puis la réflexion sur les meilleures actions, tout ça. Et puis t'as aussi, c'est un jeu coopératif, mais je vais laisser la parole. Je vais, j'écoute.
Il vaut mieux.
On en discutera pour lors de notre dossier sur le coop. L'un des problèmes du coop, c'est qu'il y a un leader et après, tu le suis, et puis ça tue le jeu. Et là, l'idée, c'est que chacun s'exprime et qu'on choisisse, que tout le monde choisisse. Mmh. Voilà la meilleure solution. Donc l'île interdite, c'est bon, mangez-en.
J'enchaîne avec un nouveau jeu pour la famille.
Ouais.
C'est pareil, c'est donné à partir de 8 ans, et là, pour le coup, vraiment, même un peu plus, je pense, 8-10 ans, il faut savoir lire. C'est un jeu...
Pour le coup, oui, il faut savoir lire.
Là, oui,
6 ans et demi, ça marche pas.
Non, et puis en plus, c'est un jeu donc très connu, c'est le Time's Up, qui a été fait en version famille. Donc c'est très sympa parce que forcément, si vous jouez avec le Time's Up normal, je vous rappelle, c'est faire deviner des personnalités en trois manches. Au début, vous avez c'est toujours les mêmes 40 personnalités qu'il va falloir faire deviner. La première manche, c'est vous avez le droit de faire une définition complète. La deuxième fois, vous avez le droit de donner qu'un nom, un mot.
Oui, un seul mot. En fait.
Et ensuite, la troisième manche, c'est carrément par un mime. Donc, pour des enfants, faire deviner Michel Drucker. Bon.
Loana.
Loana, ça va être difficile. Donc, ils ont eu la bonne idée de faire une version, en fait, beaucoup plus accessible, donc pour la famille. Et donc, il faut, dans ces cas-là, faire deviner plutôt des objets ou des métiers.
Tu peux nous donner un exemple, peut-être?
Ouais. Alors, par exemple, faire deviner un tapis, une gare.
Mais on a dit pas les, on avait dit pas de Bernard Tapie.
Ah oui, mais comprends pas. Non. Et ça avec un S, donc non. Ah. Une tomate. Donc tu vois, ça peut être plus facile. Voilà. Mais il y avait aussi vigneron, par exemple, dans les mots. Un troll. Bon, alors un troll, peut-être les enfants maintenant.
Papa.
C'est, voilà. C'est, après bon. Une tronçonneuse. Pourquoi Papa. Pas? Ça dépend du contexte. Hein. Je pense que il y a des mots, les enfants, ils auront peut-être plus de mal. Enfin, s'ils sont trop jeunes, ils sauront pas forcément.
Ouais, mais ça, c'est le Time's Up. Le problème du Time's Up, c'est toujours pareil. Oui. C'est-à-dire, t'as toujours quelqu'un qui râle en disant, ouais, mais je le connais pas, tout ça. Mais c'est un peu comme dans Pandémie.
Le soutien-gorge. Je pense qu'il faut
tes enfants, ils savent ce que c'est qu'un soutien-gorge, j'espère.
Sans doute.
On va jeter un voile public sur cette question-là. Non, mais enfin le problème, enfin il y a pas de problème. Premier passage. Non, bon ben voilà, c'est pour soutenir les nénés de maman. Bon voilà.
Okay. Voilà.
Après, c'est on nénés. Dit néné. Ah, c'est soutien-gorge. Donc ça marche. Bon faire.
Bah c'est toujours le principe, ouais. Effectivement.
Voilà.
C'est très bien. Donc bon, Time's Up Family donc. Un jeu, donc, évidemment, pour 4 à 12 joueurs. Enfin, sachez qu'à 4, ça se joue très bien.
À partir de quand on sait lire?
À partir de quand on sait lire, ouais, 8-10 ans. Ça dure une trentaine de minutes.
Ou alors il faut...
À 4.
À partir de quand on sait ce que c'est qu'un soutien-gorge.
Ou enfin, c'est pareil, je pense qu'on a toujours le droit d'éliminer deux cartes, donc le gamin, il l'enlève. Et c'est vendu une vingtaine d'euros.
Ouais,
et
puis en plus, côté bleu, c'est soutien-gorge, côté jaune, c'est football, alors ça va, quoi. Ouais, Time's Up, c'est un bon jeu et ça marche très bien avec la famille. Un autre jeu qui marche très très bien en famille, c'est Les Aventuriers du Rail.
Ouais, c'est un jeu qui a eu un très très gros succès il y a quelques années, au niveau des prix, un peu comme Seven Wonders cette année. On sait pourquoi, c'est qu'avec le recul, c'est un jeu qui sort tout le temps et qui marche avec tout le monde, et même en famille justement.
Donc l'idée, c'est que à son tour, un joueur a deux choix. Il en a trois en fait. La première possibilité, c'est qu'il va piocher des cartes. On a le droit de piocher deux cartes, soit face visible, soit face cachée. Donc on a des cartes de couleur qui sont identiques aux liaisons entre deux villes de la carte. Et ensuite, deuxième choix qu'on a, c'est qu'on peut jouer des cartes de couleur pour poser des locomotives. Si on oppose une, c'est un point, deux, c'est deux points, et après, c'est plus intéressant. Si tu poses trois locomotives, ça va être quatre points, 7 points pour 4, 10 points pour 5, et 15 points pour 6. Donc plus tu fais des grandes liaisons, et plus ce sera intéressant. Mais les liaisons, des grandes liaisons, il n'y en a pas tant que ça, et c'est un risque à prendre. En fait, tu as une petite part de prise de risque. Deuxième part de prise de risque, c'est qu'on va avoir des contrats. C'est-à-dire qu'on va dire, je ne vais pas ni piocher ni poser, je vais piocher une carte contrat qui me dit que si je fais une liaison entre telle ville et telle ville, je vais gagner 5, 10, 15, 20 points. Donc on peut gagner beaucoup plus de points si les villes sont chacune à un bout de la carte. Donc ça c'est intéressant aussi. Alors il y a deux façons de jouer, c'est soit on va assez vite pour prendre les routes, pour les sécuriser, soit on accumule les cartes dans sa main et on les pose comme ça tous d'un coup. Et voilà. Quoi.
Ça dépend en partie des contrats qu'on a quand même à faire en début de partie.
Oui, parce qu'en début de partie, on en a également. On en choisit une, deux ou trois. Les trois. Ça oriente un petit peu la possibilité du jeu dès le départ. Donc c'est un jeu qui est sympathique, pas très long, où il y a des choix à faire.
C'est trois quarts d'heure. Hein.
Oui, mais c'est pas encore.
Non, c'est un jeu familial, c'est un format familial, quoi.
C'est vraiment bien pour les pré-ados et les ados.
Voilà. Et pour ceux qui l'auraient déjà, parce que bon, forcément, heureusement, il y a l'extension Asie qui fournit deux nouvelles cartes. On en a parlé il y a quelques numéros. Donc ils font
plusieurs semaines.
Il y a plusieurs semaines. Donc on en a parlé il y a plusieurs semaines. Donc dans le Asie, c'est un plateau double face. Donc il propose deux cartes sur l'Asie différentes. Donc des nouveaux parcours, c'est pas mal. Ça change un petit peu, effectivement. Ça va changer les objectifs. Ça va changer un peu vos habitudes de jeu. Donc voilà, c'est encore l'occasion de... Si vous aviez le jeu et qu'il dormait un petit peu sur une étagère, bah, ça va être l'occasion de le dépoussiérer un petit coup grâce à ces deux nouvelles cartes.
Ouais, il y a plein de façons de le dépoussiérer. Il y a aussi 1910,
ouais.
les nouveaux contrats.
C'est une extension que je recommande d'ailleurs, parce que justement, il y a besoin de ces nouveaux contrats.
Ça renouvelle...
Pour la version américaine, en tout cas, ouais.
Ça amène en fait de l'inconnu, parce qu'à force de jouer, après on sait à peu près ce sur quoi on peut tabler, qu'est-ce qui va arriver. Alors que là, c'est un peu plus... ça renouvelle un peu le jeu, quoi.
Donc, Les Aventuriers du Rail, c'est pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Et ça dure entre, on va dire, 3 quarts d'heure et 1 heure. Voilà, c'est chez donc Days of Wonder et c'est à une quarantaine d'euros.
Oui, c'est ça. C'est jamais très, très... C'est ça, c'est toujours un petit peu cher, les jeux Days of Wonder.
Non, je suis plus d'accord.
T'es plus d'accord?
Non. Avant, je crois que c'était cher. Maintenant, 40 euros, c'est dans la moyenne des prix de tous les jeux.
C'est vrai, parce qu'en fait...
ils ont pas trop monté leur prix.
Non, les autres, oui, mais pas eux.
Ouais.
Alors il y a un autre jeu qu'on peut citer, qui est pas forcément un jeu très 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 familial, ou alors family trash en fait, je sais pas comment dire. C'est Survive Escape from Atlantis.
Qui est pas facile à trouver aussi, je pense.
Oh non, si, parce que maintenant ce sera les Stronghold. Alors
sera Survive, mais dans les boutiques en dur, je sais pas.
C'est ça. Mais tu vas chez Ludic Bazar, tu le trouves sans problème.
Bon bah très bien alors.
Bon. Alors Survive, l'idée est simple. Ça commence comme un colon de Catane.
C'est un peu comme l'île interdite, c'est l'île qui sombre.
C'est ça.
Sauf que c'est pas coopératif celui-là.
C'est ça. C'est tout ça. C'est tout à fait ça. Alors vous sortez bord l'île interdite, vous les faites jouer en leur disant voilà c'est comme ça. Et après vous sortez sur vrai en disant maintenant c'est chacun pour sa peau, crève charogne. Parce que une fois que les petits meeples ont trouvé une barque, il y a des baleines qui viennent casser la barque. Et après il y a des requins qui viennent bouffer les bonhommes qui sont dans la barque.
Et puis il y a les serpents de mer qui mangent tout.
Voilà.
Donc en gros voilà, chacun à son tour donc les joueurs ont une dizaine de pions qui vont au début placer sur l'île et au fur et à mesure du jeu l'île va sombrer et donc les pions vont se retrouver dans des barques ou dans l'eau et il va falloir essayer de les ramener sur des îles qui sont en bordure du plateau. À son tour de jeu, on a trois actions. Déplacer un pion d'une case, c'est une action. Déplacer une barque d'une case, c'est une action. Donc on a très vite fait ces trois actions. Ensuite, on doit retirer une des tuiles de l'île justement qui sombre. On la retourne et derrière, il peut y avoir une action. Ça peut faire apparaître des requins, des baleines, des choses comme ça, une barque.
Des actions positives ou négatives.
Ou on peut avoir des actions effectivement positives pour soi qu'on va garder et qu'on pourra jouer à d'autres moments. Comme par exemple, tuer un requin au moment opportun. Et puis ensuite, on lance le dé pour déplacer un animal marin qui va en général se rapprocher des pions adverses. En voilà, la fin de la partie arrive quand quasiment toute l'île a sombré, qu'on a révélé une tuile volcan dans les dernières tuiles de jeu. Et dans ces cas-là, on regarde les pions qui sont arrivés sur les îles. Sous les pions, en fait, il y a des points de 1 à 6 points. On fait la somme des points. Celui qui a le plus de points a gagné. Donc c'est vraiment un jeu d'enfoiré. C'est à marche. Et croyez-le, ça dépend peut-être des familles. Il faut que les enfants soient entraînés à jouer et qu'ils ne rechignent pas à se... Déjà qu'ils chouinent pas à voir leur pion mourir, ce qui en général ne les dérange pas du tout chez moi. Au contraire, ils ont tout plaisir à se venger et à venir me croquer la barque où j'avais mis trois mecs.
C'est ça. Oui, on prend le contre-pied en fait de l'île interdite et de ce jeu à l'allemande qui est des aventures du rail, où la confrontation elle est quand même très très éloignée, alors que là c'est vraiment la confrontation très très directe. Et où c'est, bah tiens, moi tu m'as fait ce coup-là, moi je vais t'envoyer les requins et tu vas voir ce que je vais te mettre.
Voilà.
Donc ça change. Donc,
si les joueurs coopèrent, c'est juste pour aller mieux croquer la barque d'un troisième joueur.
C'est ça. Il faut bien expliquer qu'en fait la coopération ça dure qu'un temps. On peut, mais non.
Si, on l'a eu fait. Moi j'approche le serpent de mer, mais il a deux cases, donc j'avance d'une case vers la barque et je compte sur mon voisin de gauche s'il peut déplacer le serpent qu'il aille finir le travail. C'est comme ça que ça marche. C'est la belle coopération.
Alors, c'est chez Stronghold Game, c'est de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. La partie dure à peu près 45 à 60 minutes. C'est un peu cher parce que c'est de l'import américain. Et puis en plus, c'est une cinquantaine d'euros. Par contre, il faut noter qu'ils ont fait une extension 5 et 6 joueurs. Alors, peut-être que ça vous intéressera pas, mais il y a deux bonnes raisons de l'acheter. D'abord, sous les pions verts de Survive, on voit pas chaque meeple.
Sur les pions bleus. Ouais, on n'arrive pas à lire les
chaque
chiffres.
Meeple
on voit pas les valeurs.
Une
des
valeur.
Chiffres, ouais.
Et il y a des valeurs qui ne se voient pas. Donc ils ont mis dans la boîte toutes les couleurs. Ils ont mis les 6 couleurs et pas seulement les 2 dernières, en fait.
Parce que dans le jeu de base, c'est des pions en bois et dans l'extension 5-6 joueurs, c'est des pions en plastique. Ouais.
Ça, c'est la première chose. Et en plus, il y avait un problème de mauvaise impression de certaines tuiles et ils ont remis dans la boîte les 5 tuiles qui manquent.
Le vrai problème que je vois, c'est sur les meeples en bois, en fait, ils sont pas tous la même taille. Donc moi, à la fin, j'ai finalement tout remplacé, j'ai tout mis mes meeples en plastique.
Oui, oui, oui.
Parce que même, ils ont pas les mêmes, je sais pas comment c'est fait, ils ont pas les mêmes tailles, les meeples, donc, bon, on fait pas attention non plus tant que ça. Mais finalement, en plastique, ils sont plus faciles à utiliser, effectivement.
Mmh. Donc, l'extension est pas très chère, elle est relativement peu chère, elle vaut 8 euros. Moi, mon conseil, c'est allez-y, achetez-vous c'est cher de base, c'est peut-être, vous aurez peut-être un jeu de ce genre-là dans votre ludothèque. Allez-y et puis prenez la totale. Prenez aussi l'extension 5 à 6 joueurs. C'est pas parce que vous y jouerez peut-être pas 5 joueurs, mais au moins ça vous aurez un super matos.
Par contre, c'est un jeu plutôt pour une famille de joueurs déjà. Faut que les enfants soient déjà un petit peu entraînés au jeu, je pense.
Ouais, tout à fait.
Donc en résumé, pour les jeux de famille, on a fait Soft, on vous en propose 4.
4,
on va dire. Donc L'île Interdite, donc jeu coopératif à partir du temps. Time's Up Family, donc jeu d'ambiance, à partir de 8-10 ans, pareil.
On joue avec mémé aussi.
On peut jouer avec mémé, mais avec mamie, ouais. Pour les mimes, c'est plus dur. Quand elle a mimé le skateboard. Et ensuite...
Ou le tapis. Alors là, je voudrais bien le mime de
tapis
par mémé.
Elle se prend les pieds dans le tapis. Ouais. Ensuite, on vous a parlé des aventuriers du rail. Et donc, notamment l'extension Asie qui vient de sortir. Si vous avez déjà et que vous voulez un petit peu dépoussiérer tout ça.
Et 1910.
Et puis 1910, c'est une extension pareil qui vous ramène juste des cartes, mais qui permet de varier les objectifs sur votre aventurier du rail classique. Et puis on vous a parlé de Survive, qui est un jeu d'enfoiré cette fois-ci. On prend le contre-pied de l'île interdite. Le but, c'est vraiment de sauver ses bonhommes tout en faisant croquer tous ceux des adversaires. C'est un jeu donc très sympa, mais plutôt pour des joueurs. Tout ça, ça a des formats entre 3 quarts d'heure et 1 heure, et tout à peu près à partir de 8 ans.
On continue, les enfants grandissent, les jeux changent, et quand ils sont un petit peu plus grands,
ils aiment se mettre dessus.
Voilà.
Enfin, c'est plus des garçons, mais en même temps, dans les jeux, on se met quand même joyeusement dessus.
Ouais, enfin.
Il n'y a pas de Barbie fait ses cours, ça,
non.
Un jeu de société.
Il y a Martine. Ah ouais, bon. Je vous mettrai un petit Martine sur le site. Bon, passons. Alors, premier jeu, Small World.
Ouais, alors on va considérer que c'est des ados, c'est un cadeau que vous faites à vos neveux par exemple, qui sont pas forcément, vous savez pas trop s'ils sont joueurs, etc. Mais vous voulez pas leur offrir un Monopoly quand même, vous dites vous allez offrir un truc un peu plus sympa.
Et puis vous voulez pas non plus tomber dans le Catan traditionnel, ou le Carcassonne traditionnel.
Ouais, qui sont des classiques qu'on n'a pas cités.
Et puis qui commencent à vieillir un petit peu, donc...
Voilà, donc vous leur faites Small World.
Small World.
Donc... Un jeu de...
Philippe Kehrt.
Voilà, Philippe Kehrt. Qui est sur un thème fantastique. Les joueurs, en début de partie, vont avoir un peuple, chaque peuple. Et chaque peuple, en fait, c'est associé de manière aléatoire des pouvoirs. Ils vont devoir partir à la conquête d'un territoire, enfin de plusieurs territoires. En fonction du nombre de joueurs, les plateaux sont évolutifs, donc ce qui permet vraiment déjà d'amener toujours de la dynamique dans le jeu, quel que soit le nombre de joueurs. Ça, c'est important. À son tour de jeu, on choisit ou bien on fait décliner. Le jeu se joue en un certain nombre de tours en fonction du nombre de joueurs, par exemple en 10 tours à 2. Donc à son tour de jeu, ou bien on va faire décliner son peuple, auquel cas on fait rien. Ce tour-ci, le peuple ne marque pas de points. Mais plus tard, le tour d'après, on va vous revenir avec un peuple tout neuf qui nous permettra de conquérir de nouveaux territoires et donc de mieux remarquer les points de victoire. Ou bien donc on peut partir à la conquête de territoires. Donc en fait, le concept est assez simple. Il n'y a pas de jet de dés pour résoudre les combats. Il faut mettre un pion par case qu'on veut conquérir, plus un pion par pion qui est déjà présent sur place.
Sachant qu'il y a les montagnes,
oui.
et que Desvendeur a eu la bonne idée de mettre un jeton montagne
pour
sur les cases de montagne pour dire qu'il faut payer un point.
Voilà.
C'est vraiment très bien fait.
J'essaie de résumer.
Oui, tout à fait.
Donc voilà son tour de jeu. Il faut savoir qu'un peuple va arriver à peu près avec une dizaine de pions, donc ça va permettre de conquérir 3-4 territoires. Ensuite, à la fin du tour, on peut réorganiser ses pions comme on veut, et tout d'après, on pourra repartir à la conquête. Un peu mieux. Chaque peuple est associé à son pouvoir éventuellement à des façons de marquer des points de victoire
oui.
différents.
Les peuples en fait ont une capacité
ouais.
et des pouvoirs sont associés aléatoirement à ces peuples.
Oui, ils peuvent marquer des points. Et du coup, ça indique aussi leur façon de marquer des points de victoire supplémentaires.
Je ne comprends pas ce que tu es en train de dire.
Et ben, par exemple, les humains, ils marquent des points s'ils sont dans les plaies.
Ah, tout à fait.
Donc, ils ont des bonus sur leurs points de victoire.
Tout à fait. Ça peut être ça, ou ça peut être des capacités complètement différentes. Par exemple, pour les elfes, que quand
tu meurs, ils peuvent revenir.
C'est ça. Attends. Les elfes, en fait, tu ne retires pas de jetons quand ils meurent. Donc, effectivement, quand ils meurent, ils peuvent revenir.
Ils peuvent
c'est
revenir.
Tout à fait ça.
Ça tombe bien. Incroyable. Incroyable. Voilà. Et donc, à la fin de son tour de jeu, on marque les points de victoire. Par contre, quand le peuple a décliné, il ne rapporte plus de points de victoire. Donc, on marque les points à chaque tour.
Ou pas.
Le but, c'est d'avoir plus de points à la fin de la partie, évidemment. Et donc, toute la subtilité du jeu, bon, il y a le plaisir de se taper dessus. Et il y a donc la subtilité, c'est de savoir quand mon peuple doit décliner, parce que en fait je m'aperçois qu'il fera plus grand chose, parce que un peuple il arrive sur le plateau au début, il va s'étendre facilement, le tour d'après aussi, mais après au fur et à mesure il va avoir un grand territoire, donc certes il marque beaucoup de points de victoire, mais il a plus de possibilité de s'étendre. Au bout d'un moment il a un pion sur chaque case et puis il n'en a pas plus, donc il peut plus faire de conquête. Il faut savoir choisir à quel moment on va arrêter de jouer ce peuple et en jouer un autre, en sachant qu'une partie se joue sur 8-10 tours. On fait pas tant de déclin que ça. Il faut bien savoir gérer.
Deux, trois peuples.
Deux à trois. Mais le troisième, il faut savoir. Souvent, il tombe sur les derniers tours. Il faut savoir gérer. Voilà. Donc, ça marche très bien. C'est en plus un jeu qui se renouvelle agréablement, puisque les peuples, on leur associe des pouvoirs toujours de manière différente. Et puis, si on en a fait le tour au bout d'un moment, pas de problème. Il y a des extensions qui ramènent des nouveaux peuples, des nouveaux pouvoirs. Et là, par contre, il y a de quoi faire. Ça double, si on prend toutes les extensions, ça double le nombre de peuples et de pouvoirs.
Tout à fait.
Donc, sans parler de Small World Underground qui est sorti en juin et qui reprend les concepts du jeu avec peut-être quelques peuples et quelques pouvoirs différents. On n'a pas testé et qui joue
sous terre. Des objets aussi, t'as des choses un peu.
Ouais. Mais les cartes, enfin, ça nous a paru plus flashy, les couleurs et tout du plateau. Le plateau nous a paru moins lisible. Maintenant, on n'a pas joué, on va pas s'avancer non plus. Donc, Small World pour 2 à 5 joueurs. À partir de 12 ans.
12 ans.
Ouais, 12 ans. Je parle pour des enfants qui sont pas habitués à jouer.
Bah, 12
ans. Bon, 10 ans. 10-12 ans. Et c'est une quarantaine d'euros.
Bah, sur la boîte, ça doit être marqué 8 ans et plus.
Mais par Days of Wonder. 8 ans et plus.
Ouais.
Faut que j'essaye, là.
Bon, ben, voilà. Ben, j'ai plus rien à dire. Pour une fois, j'ai plus rien à dire. Bon, et puis, puisqu'on est dans les jeux où on se tape sur la figure, moi je voulais parler de Claustrophobia. Claustrophobia, c'est un jeu de croc.
De croc.
Tu veux en parler un petit peu de croc?
Non.
Ta grand-mère jouait à Innominé Satanis avec lui.
Avec croc, elle aimait beaucoup, après la messe.
Donc l'idée, c'est un jeu qui est déséquilibré. Ah, Jérémy dit asymétrique. Donc c'est un jeu asymétrique où on a d'un côté les humains et de l'autre côté on a des monstres troglodytes.
Les troglodytes.
Voilà.
Qui vivent sous terre.
Donc en général, on va avoir énormément de troglodytes parce qu'ils reviennent, c'est de la chair à canon et que c'est un peu la horde. J'ai swarm en anglais, mais j'arrive pas à trouver de. Tu sais, c'est l'essaim, la nuée.
Oui, c'est l'essaim.
C'est une nuée de troglodytes. Qui vont être confrontés avec un nombre limité de personnages humains qui sont, alors je vous épargne le fluff, mais c'est des reprises de justice avec en général un garde-churme qui descend dans les tunnels. C'est bourré de hasard, ça, tout se résout au lancer de dés et aux cartes un peu chaotiques. C'est un jeu très français. Dans l'acceptation, je prévois mes coups et en fin de compte, non, je ne peux pas parce que mon adversaire va sortir la carte qui dit non, tu ne peux pas. Mais il faut pas le voir comme ça, c'est-à-dire qu'il faut le voir comme un jeu où voilà, on va passer un moment, on va te raconter une histoire et puis on va latter du troglodyte.
Ouais, pour ceux qui connaîtraient un peu, ça se rapproche des Space Hulk ou Space Crusade d'il y a une vingtaine d'années. 15-20 ans, oui, une vingtaine d'années maintenant quasiment. Mais... Et à la sauce croc, mais ça marche très bien.
C'est très simple.
Le matos, c'est sympa.
Il y a des très bonnes idées dans le sens où, quand on va commencer à chaque début de manche, on va lancer des dés. Ces dés vont être une contrainte en fait. Soit pour les troglodytes, on a en fait un plateau individuel où on va avoir plein de choses. En fait, on va pouvoir donner n'importe quel dé pour. avoir un dé supplémentaire la prochaine manche, où on va pouvoir donner des dés soit pairs, soit impairs, pour avoir des dés de menace, les dés de menace, les points de menace. Les points de menace vont pouvoir nous permettre d'amener des hétéroglyphes en jeu. On va pouvoir sacrifier deux dés impairs pour donner des déplacements supplémentaires à notre hétéroglyphe, etc., etc. C'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier en fait le jeu grâce au lancer de dés qu'on va effectuer. Pour le côté méchant, les troglodytes, c'est 3 dés. Et on ne lancera jamais que 3 dés, sauf si on en bloque 1 et qu'on le relance la fois d'après. Et pour le côté, entre guillemets, gentil, on va dire humain, on va lancer un nombre de dés égal au nombre de personnages qu'on aura sur le plateau. Et en fait, chaque personnage a un petit, petite boîte où le dé va s'encastrer. Et en fait, sur chaque boîte, il y a 6 lignes avec attaque, déplacement et défense. Et en fait, on va faire jouer les caractéristiques de son personnage en disant, cette fois-ci, j'ai fait un 3, ça va me permettre de donner du déplacement à ce personnage-là, ou de la défense à ce personnage-là, ou de l'attaque. Et en fonction du résultat, on va faire varier ces capacités-là, et puis on va répondre un petit peu aux événements qui vont se produire. Donc c'est malin, il faut pas être allergique au hasard parce qu'il y en a énormément. Ça dure pas très longtemps et puis on peut faire des allers-retours, c'est un peu comme dans Mémoire 44. C'est pas parce que c'est asymétrique que c'est forcément il y a un côté qui,
enfin, c'est pas déséquilibré.
Voilà, on revient sur ce que je disais tout à l'heure. Bon, c'est déséquilibré, mais c'est pas grave. Et voilà, donc moi j'aime beaucoup. Ça joue avec des enfants qui sont pas forcément très grands. C'est à partir de 14 ans.
C'est marqué 14 ans sur la boîte quand même. Ouais. C'est pour ça qu'il est dans la catégorie ado. Il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte, pas mal de textes sur les cartes. Et puis la thématique aussi est peut-être pas très.
Ouais, c'est carrément pour des enfants, pour des adolescents. On est des mauvais exemples, mais voilà, pour des ados, c'est très bien. C'est une introduction parfaite au jeu de figurines. Et puis il y a un truc dont j'ai pas parlé, qui est super important. Les figurines sont peintes.
Oui, c'est ça. Moi, j'adore le matos. Il y a des figurines peintes. Bon, par des petits chinois, sans doute, malheureusement pour eux. Le plateau, il est constitué par des tuiles. C'est des sacrées tuiles, quoi. Elles font 10 cm par 10 cm. Il y a vraiment de la place pour mettre ces figurines, les troglodytes, etc. Mmh. dessus. On s'en met pas à compter des cases, comme dans plein de jeux. On compte par tuiles, par des grosses tuiles.
Ah non, les tuiles sont très simples.
Ouais, non, mais ça surprend au début la taille des tuiles dans ce jeu. Non, c'est très bien fait, c'est bien illustré, c'est impeccable. Il y a que 4 scénarios par contre dans la boîte de base, heureusement. Ouais. Je croyais qu'il y en avait 6, mais je viens de revoir.
Il y en a 4. Plein en ligne, donc c'est pas.
Voilà, on en trouve plein en ligne, c'est ce que j'allais dire. Et puis de toute façon, il y a une extension. Après, pour ceux qui accrochent vraiment, ils peuvent encore aller plus loin avec des Profundis qui est sorti récemment.
Claustrophobia, 40-45€. C'est de Croc. L'éditeur, c'est Asmode Edition, pour 2 joueurs, 14 ans et plus, et puis environ 45 minutes.
Bon, une heure en montant le matériel, etc.
Voilà, et 2 Profundis, c'est sorti aussi, une 30aine d'euros.
Et puis, on vous en a parlé plein de fois, parce que c'est un jeu qu'on aime beaucoup, qu'on pratique déjà avec nos enfants à partir de 7-8 ans, mais qui, à mon avis, prend tout son sel pour des ados, parce qu'ils ont du temps, parce qu'ils vont aimer ça, c'est Mémoire 44. Donc Mémoire 44, ça reprend des batailles de la Seconde Guerre mondiale. C'est un jeu, donc pareil, scénario asymétrique évidemment, puisque les forces en présence ne sont pas forcément équilibrées, ni leurs chances de victoire, parce que ça colle à l'histoire.
Oui, c'est ça. C'est qu'on revit des batailles qui ont effectivement eu lieu, donc il y a des fois, c'était pas drôle.
Non, et puis donc avec une petite part de hasard. Donc ça reprend le principe de Command & Colors de Richard Borg.
Une petite part de hasard.
Ouais.
Ouais, c'est un jeu à boîte de dés, et toi tu dis une petite part de hasard.
Ouais, parce que tu construis vachement ta stratégie, mais
ouais.
Enfin bon.
D'accord.
Il y a le bon joueur et le mauvais joueur à Mémoire 44.
Voilà, c'est ça. Moi, je sais pas lancer des dés.
Voilà. Non, mais je te prêterai mon guide stratégique et tactique là, de Mémoire 44. T'apprends vachement de trucs. Donc c'est là que tu te rends compte que, enfin bon, déjà quand tu joues beaucoup, tu t'aperçois qu'effectivement il y a pas que du hasard, et en plus quand tu lis le bouquin, tu t'aperçois que tu passes encore à côté plein de trucs. Bref, les ados vont pas forcément jouer à ce niveau-là de compétition. Donc c'est un petit peu déséquilibré des fois, bah parce que voilà, ça retranscrit les batailles de l'histoire et que ça a pas vocation à équilibrer ces batailles-là. Après, une fois que le plateau est mis en place, de toute façon, une partie c'est 3/4 d'heure à peu près, donc sur les cartes, on va dire, traditionnelles, les cartes standards. Donc, en 3/4 d'heure, bah, c'est pas de problème pour faire un aller-retour. Les joueurs changent de camp et puis ensuite on compare les scores et celui qui a fait, qui a eu les meilleures victoires, l'emporte.
Oui, puis c'est surtout que si on fait un aller-retour, le paysage sera toujours en place,
ça, là,
la carte sera toujours toujours là, et oui, c'est clair.
Tu gagnes du temps. Donc le concept, c'est Command Colors de Richard Bork, c'est-à-dire que le plateau en fait est divisé en 3 zones, donc le centre, l'aile gauche, l'aile droite. Enfin, oui, je sais pas comment ils appellent ça.
Le flanc.
C'est les flancs. Mmh. Ouais. Donc les flancs gauche, flanc droit. On a des cartes, les joueurs ont des cartes, donc en fonction du scénario, entre 4 et 6 cartes devant eux, qui vont leur donner des actions possibles. Donc à son tour, on joue une des cartes. Donc, par exemple, ça dit activer 3 unités au centre. Donc on choisit 3 unités au centre, elles vont d'abord toutes se déplacer. Alors bien sûr, il y a des effets de terrain qui vont s'appliquer, l'infanterie va se déplacer moins vite que les chars, etc., que l'artillerie. Ensuite, une fois que toutes les unités ont bougé, on va résoudre les combats. Donc les combats se résolvent en jetant des dés. Donc pareil, en fonction de la distance de l'unité qui tire, on jette un plus ou moins de dés, en fonction aussi du terrain qui est occupé par l'unité sur laquelle on tire.
C'est là que votre talent au jet de dés va prendre tout son sens.
C'est ça. C'est là où, si vous savez discrètement modifier les résultats des dés, ben vous allez mieux gagner.
Chichi, j'ai gâché molle. Bravo, bravo.
C'est toi qui suggères ça à moi.
Comment ça j'ai suggéré ça? J'ai suggéré que j'étais pas bon en dés, c'est tout.
Ensuite, voilà, et c'est tout.
C'est tout.
Voilà, à la fin de son tour, on repioche une carte pour remplacer celle qui a été jouée, et c'est à l'adversaire de jouer. Donc c'est rapide, c'est dynamique.
Et quand on a un minimum d'habitude de jouer les unités, en fin de compte,
ouais, en sachant
ça roule.
En plus, il y a plein d'aides de jeu.
Ça roule.
C'est comme les dés. Ouais. Et donc il y a des aides des dés qui roulent.
Ça roule.
Ouais. Et donc les aides de jeu qui permettent de se rappeler éventuellement au début des premières parties ce que font les effets de terrain. En plus. Donc la boîte de base contient déjà une quinzaine de scénarios. L'avantage, c'est qu'ensuite le jeu est fortement extensible. Il doit y avoir à peu près une dizaine d'extensions qui proposent des nouvelles armées pour étendre par exemple sur le front de l'Est, sur le front méditerranéen, sur le front pacifique. On a également de quoi avoir plein de scénarios, des cartes plus grandes, enfin vraiment de quoi me jouer à 4 ou 8 joueurs. Donc c'est pas forcément plus intéressant au niveau du jeu, mais si c'est une bande de copains, c'est sympa. Ouais, voilà, il faut une grande table. Donc c'est un choix qui somme toute, enfin pour les ados, c'est,
tout à fait.
Ils ont de quoi s'occuper. Donc la boîte de base, c'est pour 2 joueurs à partir de 8 ans et c'est une 50aine d'euros. C'est chez Desofondeurs. Ensuite les extensions, il faut compter à peu près 25€ par extension.
Mais c'est des heures et des heures de jeu.
Et là, c'est des heures et des heures de jeu, évidemment.
Dernier jeu sur concernant les adolescents.
Ouais, on va commencer
à shifter un peu.
À passer sur le. On est à cheval, en fait, entre les jeux pour ados qui connaissent déjà le jeu pas mal, qui pratiquent déjà le jeu, là, on va dire. Et puis, on va déjà, donc, du coup, être à cheval avec la catégorie d'après, qui est les passionnés.
Oui, on fait les passionnés, puis après, on fera les.
Bah, du coup, oui.
Ouais. Alors, on va vous parler du Seigneur des Anneaux, le JCE. Alors, on vous a déjà parlé moult fois du Seigneur des Anneaux JCE. Donc
qui n'a pas entendu dans ce podcast du Seigneur des Anneaux JCE? Ça peut prendre un fil rouge de chaque épisode.
Alors, pour rappel, les JCE, il y en a quelques-uns. On vous a parlé du Trône de Fer. On vous a parlé aussi de Cthulhu. Le gros avantage du Seigneur des Anneaux JCE, c'est qu'il est coopératif. Il est taillé pour 2 joueurs, même s'il se joue en solo ou à 4. Il est un peu dur en solo parce qu'on ne peut pas avoir toutes les cartes et que l'idée c'est de se confronter à des scénarios qui vont avoir à des menaces différentes selon le scénario. Et si on est tout seul, c'est compliqué. Si on est à 4, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est taillé pour 2 joueurs et l'idée c'est qu'on va constituer une équipe avec 3 héros. On va constituer son deck. À peu près à cette époque-là, va sortir la 5e extension. Donc un cycle fait 6 extensions, une boîte de base et 6 extensions. On en est à la 5e extension et on n'a pas encore totalement trop de cartes. Et pour faire un jeu de 60 cartes, on met presque toutes les cartes en fait d'une couleur. On peut en écarter, mais on a quand même assez peu de choix dans la construction de deck. Et l'idée, c'est que si on joue à 2, on va choisir une ou 2 couleurs, parce qu'il y a des couleurs en fait de cartes qui vont
les disciplines.
des disciplines, soit nous donner des cartes combattantes, soit des cartes de quête, soit des cartes qui font piocher, qui se soignent, etc., etc. Et l'idée, ça va être de partir à l'aventure selon le scénario de soit les scénarios qui sont fournis dans la boîte de base, soit les scénarios qui sont fournis avec les extensions. Et il y a deux phases en fait. On va d'abord partir en quête. Ça peut être la poursuite de Gollum, ça peut être protéger un grand aigle, ça peut être plein de choses. Mais la contrepartie, c'est que il y a les héros qui partent, les héros et les alliés qui partent en quête, et puis il y a des menaces qui arrivent. Et les menaces, il va falloir leur latter la gueule. On peut pas rester inactif devant ça.
Ouais,
c'est important. C'est ça la difficulté, c'est que il faut être sur les deux fronts à la fois, et il faut avancer à la fois dans la quête et il faut arriver à.
En sachant que sinon ils deviennent te casser la gueule eux-mêmes, hein, les méchants.
Oui, il faut arriver à résister aux menaces qui sont là et qui nous menacent. Donc voilà, c'est assez technique.
Très technique.
C'est très technique. C'est un jeu de cartes où il faut bien regarder toutes les fonctions des cartes qu'on a en main. Il n'est pas encore assez mûr, à mon avis, pour faire vraiment de la construction de deck. On fait que de l'épuration en fait, de cartes en fonction de ce qu'on veut faire avec son paquet. Soit plus être combattant, soit plus partir en quête, soit piocher des cartes, etc. Mais pour moi, quand je commence un scénario,
n'es plus Olivier, tu es Bilbo.
C'est ça. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Quand je choisis Bilbo et Frodo pour aller en quête et qu'ils arrivent devant un troll ou deux trolls ou trois trolls même, et ben c'est fun. C'est ça. C'est ça aussi. C'est coopératif et un bon coopératif parce que il y a pas cet effet leader qu'on peut trouver dans d'autres jeux coopératifs. Et puis, on vit une aventure. Et ça, c'est vraiment très chouette. Le matériel est de toute beauté. L'édition est formidable. C'est vraiment un jeu qui est pas raté, autant sur le fond que sur la forme. Donc, en espérant que ça va pas s'essouffler, à un moment donné, je sais pas comment ça va faire pour la deuxième ou la troisième édition. Je sais pas si je poursuivrai ce jeu sur la longueur, mais là, je suis totalement satisfait de ça. Et je pense que pour faire arriver un adolescent sur le jeu de cartes à collectionner, ou sur le jeu de cartes évolutif, ou même rien que sur le jeu de cartes, c'est terrible, quoi. Ça marche vraiment très très bien.
Et le côté coopératif en plus qui rajoute dimension supplémentaire.
Ouais, tout à fait. C'est pas de la confrontation, c'est pas. C'est bien, c'est très bien. Donc, pour les ados, on a Small World avec toutes ses extensions pour un petit peu faire pour un jeu de conquête. On a Claustrophobia.
Un risque mieux, on va dire.
Un risque mieux, tout à fait. On a Claustrophobia nous amène dans les jeux de figurines, du jeu de figurines qui est simple et déjà prépeint. Mémoire 44 pour le Command & Colors, et puis JCE, le jeu de cartes évolutives du Seigneur des Anneaux pour les cartes à collectionner ou à faire évoluer. On est toujours dans un guide d'achat.
Bah, si Olivier vous en a parlé avec le cœur, c'est qu'effectivement c'est un jeu qui intéresse les passionnés. Donc
ça pose un problème quand même. C'est que si vous offrez pour Noël le Seigneur des Anneaux, mettez quelques extensions parce que là on arrive à la quatrième extension, ça va faire un peu cher pour la pauvre personne qui va recevoir ce cadeau. Par contre, même avec la boîte de base, ça marche. Donc la boîte de base vaut 35 €. C'est édité par Edge en français. Voilà. Et donc on est à la limite entre l'ado joueur et le passionné. Moi, qui suis un ado dans l'âme. Et pour les passionnés, qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir?
Il n'y a plus que dans l'âme.
Offrir. Ouais, il n'y a plus que dans l'âme, malheureusement. Qu'est-ce que tu offrirais, toi, à un passionné de jeux de société?
Cette année?
Qu'est-ce que tu m'offriras, moi?
Mais tu l'as déjà, t'as déjà tout.
Quoi? T'as déjà tout?
Ouais, on a déjà tout.
J'ai une femme belle.
Bah, admettons, un passionné.
Ma chérie, si tu m'écoutes.
Un passionné de jeu qui ne se serait pas tenu au courant ces derniers mois. Il y a jeu, de toute façon, pour moi, il y a un jeu qui sort du lot en ce moment, c'est A Few Acres of Snow.
Ouais.
C'est vraiment le jeu, alors vous en avez parlé en long, en large, en travers, dans un dossier, on est revenu sur tous les jeux de Martin Wallace. C'est un jeu qui reproduit les guerres entre France et Royaume-Uni, enfin l'Angleterre au Canada. Un jeu asymétrique, encore une fois.
Encore.
Et ouais, encore, où le français a plus de position au début de partie, mais qui va pas mal se faire bousculer par l'anglais. C'est un mélange un petit peu avec du jeu de construction de deck aussi, un peu de deck building à la Dominion.
C'est carrément un jeu de construction de paquet.
On n'est pas au niveau d'un Dominion non plus, c'est différent quand même dans son jeu.
Quel blasé.
Non, mais. Dans Dominion, ton deck il tourne vite. Dans Few Across Snow, tu galères un petit peu des fois à le faire tourner, surtout dans les premières parties.
Donc, ouais, c'est ça. Non, mais
Donc il y a de l'inspiration, mais c'est pas que ça, quoi. Il y a d'autres aspects dans le jeu. C'est un Martin Blas, donc c'est un jeu exigeant. Il faut compter au moins 2 heures pour une partie, souvent 3 pour les premières. Oh, quand même. Mais le jeu, ce qui est incroyable, c'est que après la première partie, on n'a qu'une envie de toute façon, c'est d'y revenir. Et après la deuxième, on est toujours aussi insatiable et on a encore envie d'y revenir parce que c'est un jeu exigeant et que.
Et puis que on a une foultitude de stratégies complètement différentes.
Ouais, donc du coup, à la fin de la partie, on se dit, oh mais non, en fait, j'ai fait les mauvais choix. Il faut absolument que je rejoue pour que je teste des autres idées que j'avais.
Tout à fait.
Donc voilà, donc ça c'est vraiment son côté. C'est ce qui fait d'ailleurs que pour moi c'est le jeu du moment, c'est que il y a pas beaucoup de jeux qui offrent autant d'envie de rejouer après une partie aussi longue et avec autant de choix.
Ben c'est un bon jeu qui reprend un mécanisme tendance, le deck building.
Ouais.
Qui marche juste bien quoi. Et c'est marrant qu'un jeu à deux, puisque c'est un jeu quand même uniquement à deux joueurs, marche si bien. C'est-à-dire que c'est quand même assez... Martin Wallace,
C'est pas non plus... pas pour moi, Martin Wallace, c'est effectivement un des auteurs en ce moment qui me plaît le plus parce qu'il produit vraiment des jeux qui sont pile-poil ce que j'ai besoin.
Tu veux dire après London?
Voilà, après London l'année dernière, non, mais il y a plein de jeux qu'il a eu fait. Last Train to Wednesdale, j'adore. Donc vraiment, il produit des jeux qui sont hors normes, qui sortent des sentiers battus allemands ou américains et très exigeants et parfaits. Qui sont vraiment bien pour du gros joueur qui attend du jeu de gestion où il faut se poser plein de questions pour avancer dans le jeu et pour gagner.
C'est 35€, c'est distribué par Asmodée, donc c'est pas très très cher. C'est pour deux joueurs uniquement, c'est édité par Trefrog qui est la maison d'édition Martin Wallace. Et c'est faites attention parce que ça...
C'est en anglais mais c'est pas gênant.
Elle
est traduite et il y a peu de texte sur les cartes. Oui,
tout à fait.
De...
C'est en rupture un petit peu partout, il en reste encore, mais si vous avez vraiment envie de l'offrir,
traînez pas, il n'y en aura pas.
N'hésitez pas.
À mon avis, à Noël, il n'y en aura plus.
N'hésitez pas plus. Bon, et puis, on vous parle de Few Crafts Snow. On peut vous parler de l'Olympos aussi. L'Olympos, c'est quand même un des très bons jeux du moment. Un jeu de conquête, puisque c'est Philippe Kiertz. On parlait tout à l'heure de Small World, c'est la version pour les grands de Small World, où on va avoir une civilisation et la façon de se développer est aussi, encore une fois, assez particulière, puisque en général, quand on arrive sur une région, on va prendre un jeton, puis on va dépenser ce jeton. Là, en l'occurrence, quand on va occuper une région qui donne une matière première, on va pouvoir
bénéficier
de cette matière première. L'occupation des régions donne des points. Les régions...
Là, les points sont décomptés qu'en fin de partie. Hein.
Tout à fait. Avec les matières premières dont on peut bénéficier, on va pouvoir se développer. Le développement, type de développement, sont divers et variés. On va pouvoir être meilleur militairement. On va pouvoir aller plus loin quand on va se déplacer, soit sur terre, soit en mer. On va pouvoir plaire aux dieux. Et enfin, on va pouvoir faire plein de choses, se développer de plein de façons différentes. Mais il y a quand même une sorte d'arbre technologique, puisque en fonction des matières premières dominantes en fait, qu'on va occuper, on va pouvoir avoir tel ou tel développement.
Et les développements vont donner des bonus derrière pour acheter les merveilles qui donneront des points de victoire supplémentaires.
C'est ça, les bâtiments à 10.
Les bonnes idées, les autres bonnes idées, c'est que les combats sont résolus toujours de manière très simple. Donc c'est un petit peu différent en Small World, mais c'est toujours un raisonnement sans dés.
Oui, parce que un des mécanismes dont on n'a pas encore parlé, c'est que tout est résolu en nombre, en points d'action.
Voilà,
après, le point d'action, c'est du temps, en fait.
Ouais, la notion de temps, après, qui est la deuxième bonne idée du jeu.
C'est ça. Donc en fait, pour poser un nouveau jeton, une nouvelle colonie, en fait, sur le plateau, ça va coûter 2 sabliers. Pour déplacer cette colonie, ça va coûter encore un sablier, etc. etc. Quand je repasse celui qui a dépensé le moins de temps qui va jouer, quand il va dépasser celui qui le précède, ben ça se fait à celui-là de jouer.
Et faire une recherche de science, c'est 7.
Ça prend du temps.
Ça coûte beaucoup. Et une des pressions du jeu, en fait, une des contraintes fortes du jeu, c'est justement cette gestion du temps, parce que ben, quand on a fait, je sais pas combien c'est, 60 actions ou je sais pas, c'est la fin du jeu. Donc ça il va... faut être capable de faire le maximum de points dans ce temps limité qui joue contre nous.
Ouais, ça va assez vite en fin de compte, hein. C'est pas très très long, c'est une heure,
oui, c'est une heure,
hein. Une heure et demie, une partie de l'impôt en fonction du nombre de joueurs. J'aime bien y jouer à 3. Ça fait partie des jeux auxquels il y a quand même suffisamment, il y a beaucoup d'interactions même à deux. Mais plus on va être de joueurs et plus ça va être compliqué de lire le jeu des autres. Et ça va être compliqué de se demander ce que les autres vont faire et de pouvoir dire, bah moi ouais, je vais faire ça en réaction.
À deux, c'est très, un deux, c'est tout de suite de l'affrontement.
Ouais, c'est dur. Hein.
À deux, c'est très dur, très exigeant, effectivement. Faut vraiment permanent surveiller ce que fait l'adversaire et faut pas hésiter à lui tomber dessus. À 3, ça s'équilibre du fait que ce soit à 3. Et à 4, effectivement, il y a pas mal de paramètres qui nous échappent.
Donc Olympos, de 2 à 4 joueurs chez Istari. Et ça coûte à peu près trentaine d'euros.
Ouais, entre 30 et 40 euros.
Et puis, Jérémy, tu voulais nous parler aussi de la gloire de Rome.
Alors, La Gloire de Rome, c'est un jeu de Karl Schudik dont on a pas mal, enfin, qui a fait parler lui un petit peu. Il a commencé par un Kickstarter. Donc, les Kickstarter, c'est un peu.
Un MyWiki.
C'est un peu MyWiki tout. Parce que sur les Kickstarter, on perd n'importe quoi. Mais la communauté ludique a participé donc au premier tirage, comme ça, de La Gloire de Rome, dans une version très prototype. Et le jeu a eu un très bon succès, donc ce qui fait qu'il a été édité par Philosophia. Oui, d'autres éditeurs hein, dans les autres langues.
Oui, mais il y a même eu une des
et il y a eu un split
des dérives.
Je, ouais, voilà, c'est Uchronia chez Yellow. Donc bref, mais moi je vous parle de La Gloire de Rome parce que celui-là je le connais. C'est un jeu de cartes dans lequel on va bon participer à la construction de Rome au niveau thématique. Un petit peu comme dans Race for the Galaxy, les cartes peuvent avoir plusieurs fonctions et plusieurs actions en fonction de comment on joue la carte. Et surtout, il y a beaucoup de choix. Ce qui fait que la première partie en tout cas, est assez déroutante. Peut-être pas autant qu'Innovation.
Ouais, on a joué à Innovation.
Ouais, c'est le même auteur. Dans Innovation, c'est encore un autre système d'utilisation des cartes. Ce que j'aime bien, effectivement, dans ce jeu, c'est la manière dont sont utilisées les cartes. Bon, comme je dis, on l'a déjà un petit peu vu dans d'autres jeux. Mais c'est brillant, c'est plein de choix. C'est interactif aussi. Et ça se joue en pas si longtemps que ça.
Jeu de développement.
C'est un jeu de développement, ouais. Avec des cartes. Alors c'est toujours pareil, il y a ceux qui sont allergiques aux cartes. Alors pourquoi des gens sont allergiques aux cartes? Bah tout simplement parce que il faut être capable de gérer toutes les interactions possibles qu'elles génèrent, effectivement. Et il y a des gens qui aiment pas devoir prendre en compte ça. Pour eux, ça fait trop de paramètres à prendre en compte. Par contre, pour les autres, au contraire, c'est synonyme de beaucoup de richesse.
Mmh. Ouais, enfin, j'ai fait qu'une demi-partie d'innovation. Si je me base sur ce que j'ai vu, et si tu me dis que ça ressemble,
oui.
La première partie, elle doit être assez difficile.
La partie est difficile, et d'ailleurs, ils le mettent dans les règles, hein, y a pas le choix, il faut s'accrocher. Mais c'est pour ça qu'on le met dans, c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie passionnée, pas dans une catégorie famio ou ado. C'est des joueurs qui, de toute façon, le savent en achetant le jeu. Et vont s'accrocher à la première partie parce que c'est du défrichage et qui vont ensuite se faire plaisir dans les parties suivantes. Effectivement, c'est un jeu qui révèle tout son sel au fil des parties. Un peu comme Race for the Galaxy, sauf qu'on l'oublie, mais Race for the Galaxy, je pense que pour tous, on l'a oublié, mais notre première partie, elle a dû être un petit peu fastidieuse au début. C'est bourré d'icônes dans tous les sens, il faut choisir des actions, on ne se rend pas compte de ce qu'il faut faire, on ne s'en rend plus compte, au bout d'un moment, on a oublié parce qu'on a tellement joué qu'on a quelques habitudes de jeu.
Ouais, sauf que dans Rise of Force the Galaxy, il y a quand même une logique de production, vente, développement.
Là, tu l'as, mais en fait, c'est toi qui choisis à chaque tour par rapport aux cartes que tu joues. Chaque carte peut jouer toutes les différentes fonctions.
D'accord. En fait, ce que je veux dire, c'est que dans Rise of Force the Galaxy, il y a quand même une logique et t'as des chemins qui sont tracés. C'est-à-dire que quand tu sais rien,
la première partie, c'est pas si tracé que ça.
D'accord, ok.
Je pense
qu'on
a oublié, mais la première partie, on devait être perdu, sauf qu'on l'a oublié, voilà. Parce qu'après, de toute façon, la première partie, on est tellement frustré, tellement perdu, que forcément, on en fait une deuxième derrière, et là, on commence à avoir des possibilités, et puis on en fait une troisième, et puis une quatrième, et puis voilà.
Donc en fin de compte, c'est le point commun entre tous ces jeux.
Oui.
On a Fear of Snow, qui est un jeu de conquête, à deux, où il faut s'accrocher la première partie, parce que... C'est dur, on découvre un peu les cartes et où on a envie d'y revenir. on a Olympos où c'est dur la première partie. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que tous ces développements et comment je vais m'en sortir? Mais où il faut y revenir. Et puis on a la gloire de Rome où effectivement c'est aussi. Ça doit être le pire, je pense.
C'est... Ouais, mais c'est la signature d'un jeu. Ouais. Non, Fury of Crossno aussi, c'est plus. Enfin, le problème de la gloire de Rome, tu fais une partie en trois quarts d'heure, on va dire. Tu t'es dit que t'as loupé des choses, tu peux presque enchaîner une partie. Le Fury of Crossno, tu vas pas réenchaîner une deuxième partie là tout de suite.
Il faut prévoir, c'est dur et c'est.
Ça augmente la frustration. Ouais. Voilà. Mais c'est effectivement, c'est la signature, je pense, des jeux passionnés. C'est ça, c'est le fait qu'on a envie d'y revenir, qu'il y a plein de choix et qu'ils ont une pression. C'est ce qui fait qu'on les aime. Et justement, et si on les cite, c'est parce que c'est des jeux qu'on pense qu'au bout de 5 parties, on s'en est pas lassé et on y rejouera encore. Et puis, Olivier, je pense que dans cette catégorie, tu peux peut-être rentrer aussi un de tes derniers.
Mes chouchous.
Un de tes derniers chouchous, ouais. Dont on a parlé
un
la semaine dernière.
Un de mes derniers chouchous. Tu me fais passer pour un,
non,
pour
non,
un monstre.
Bah non, Fury of Crossno, c'était aussi un de tes chouchous.
Ouais, ouais.
Olympo, ça a été un chouchou avant l'été. Et
Forbidden
enfin,
Island aussi. Oh là là. Ah ouais. Donc, Dungeon Pets, s'il arrive en boutique, en version française, par Yellow, assez vite. C'est un jeu qu'on pourrait, à première vue, offrir à une famille. Mais en fait, il n'en est rien. C'est vraiment pour les joueurs passionnés parce que c'est un vrai jeu dedans. On vous en a parlé, vous avez un article sur le site, donc je vous y renvoie. Il y a deux choses qui en font un jeu pour joueurs passionnés. C'est d'abord la première partie de chaque manche où qui est un véritable jeu d'enchères, enfin une partie enchère, et où il va falloir jauger le coût de chaque action et savoir si on veut vraiment faire des actions ou si on verra. Et puis après, c'est un jeu de placement d'ouvriers, donc il n'y a pas la place pour tout le monde, et il faut prendre les bonnes actions, il faut anticiper, il faut acquérir le rythme, en fait, de l'achat des créatures. Mais en fin de compte, ça reste quand même un jeu qui est plus, je dirais, plus léger que Olympos ou Fury of Crossno. C'est-à-dire que c'est un jeu où il y a suffisamment de hasard dans les besoins que tu dois remplir pour tes créatures pour que l'enjeu soit moins important. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, si, mais il y a quand même le jeu après une première partie demande à revenir dessus, ouais. Parce que il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte, il y a pas mal de pression, de frustration.
Donc un vrai jeu mais qui laisse une part importante au fun et puis où on n'a pas forcément à se prendre la tête comme un fou, on n'est pas au niveau de l'impôt ou à Fury of Crossno quand même. Donc Dungeon Pets, pour 2 à 4 joueurs, il faut compter 1h30. C'est Vladaj Vatil qui a fait ça chez Czech
Games Edition. Ouais, ça sera en français chez Yellow.
Chez Yellow.
Et c'est pour une 35-40 euros.
Donc, Olympos, un jeu de conquête et de civilisation chez Istari. A Fury of Crossno, un jeu qui est plus dans l'affrontement pour deux joueurs, deck building. La Gloire de Rome, si vous aimez les jeux de cartes. Et puis Dungeon Pets, pour moi, très bon équilibre entre un vrai jeu et un jeu fun. Il y a quand même une catégorie de joueurs dont on n'a pas parlé. On a parlé
C'est ceux qui ne nous écoutent pas.
C'est ça. C'est ça, mais on peut leur faire un petit cadeau quand même.
Bah oui, on va faire des cadeaux. Moi, quand je fais des cadeaux, je cherche à faire des jeux aux gens de mon entourage. Je vais pas leur offrir, j'ai pas un nouveau vase pour leur buffet, on s'en fout. Par contre, un jeu, ça c'est bien.
Mais si on les aime pas, on peut leur offrir un vase. Bon, pour les gens que vous aimez
bien. Je vais offrir un jeu qui marche pas.
C'est ça. Un mauvais jeu. Alors, ça sera une autre chronique. Un autre dossier. Donc, pour les non-joueurs, des party games?
Ouais, essentiellement du party games, hein, du jeu, effectivement. Le jeu traditionnellement dans l'esprit français, c'est un peu ça, hein, c'est le jeu, voilà. Enfin, pour beaucoup de gens, le jeu, c'est on est nombreux et il faut faire.
Trivial Pursuit.
Ouais, Trivial Pursuit, non, heureusement, enfin, c'est l'horreur, hein, c'est pas fun. Non, mais il y a plein d'autres jeux, mais effectivement, les tabous, ouais. Les machins comme ça, dans le temps, se sont imposés.
Pictionary,
Pictionary, ouais, voilà. Bon.
Et heureusement.
Bah, pour beaucoup de gens, c'est ça, le jeu, c'est s'amuser, hein, s'amuser à beaucoup. Heureusement, il y a eu le Time's Up.
Oui. Oui, et c'est surtout, et aussi, c'est le jeu sans enjeu. Tu sais, si tu réponds pas, bon, c'est pas grave. Enfin, c'est.
Oui.
Il y a cette partie-là aussi qui est. Bon, Passons. Passons sur les mauvais jeux. Donc, heureusement, les Belges à Sombrero sont arrivés.
Ah, il y a eu Time's Up, notamment, donc déjà.
Et ils ont lancé Time's Up en Europe. Ils sont parvenus à faire ça. Les loups-garous,
faut être nombreux. Enfin, oui, moi, je trouve pas que ce soit super party game. Hein. Enfin, bon. Les deux premiers qui ont le malheur de mourir au premier tour, ça s'accentue en plus parce qu'il faut jouer à nombreux, donc ils peuvent aller faire un autre jeu à deux pendant une heure. Quoi.
C'est ça. Et puis parlons aussi de Guns N' Roses. De... c'est quoi déjà?
Skull and Roses.
De Skull and Roses, le l'As d'or à Cannes cette année. Mais c'est pas de ça dont on voulait vous parler. Premier jeu que j'aime bien, qui se joue avec Mémé encore une fois, ou pas. C'est Double.
Un double avec Mémé, ouais, il faut qu'elle ait une bonne vue.
Ouais, mais ça se joue avec tout le monde, un double.
Un double, c'est le succès absolu, toute génération confondue, n'importe qui, même qui ne joue pas, ne jouera à ça.
Alors d'abord, premier point positif, les cartes sont rondes.
C'est super positif, ouais.
Ouais, c'est sympa. Sur les cartes, on a un certain nombre de petits dessins.
Il y a 8 dessins, je crois.
Et l'idée, c'est que chaque carte a...
Entre deux cartes... prise totalement au hasard.
Il y a toujours un seul symbole en commun.
Voilà. C'est beau l'informatique, ils ont fait un algorithme de taré et ils ont réussi à trouver, ou les mathématiques on va dire, ouais, et ils ont réussi à trouver ça. Donc voilà, donc entre deux cartes, il y a forcément un symbole identique. Le tout, c'est de le trouver lequel. Le jeu propose 5 règles différentes.
Et le trouver le plus vite possible.
Et le trouver le plus vite possible. Donc une partie, ça dure 2 minutes, 3 minutes grand max. Et ça se joue à 4 on va dire. Je sais pas ce qui est marqué sur la boîte.
Non, ça se joue à deux. Ça se joue à... Non, ça se joue à deux.
Deux,
ou
trois, quatre. Ouais. Moi, je joue avec les enfants. Enfin, ouais. Ça se joue avec tout le monde. Ça marche vraiment bien, à tel point que les cartes sont dans un état très, très abîmé. Il va falloir que j'en rachète.
Autre petit jeu comme ça qu'on a découvert à Essen. Ça, encore un coup de cœur, c'est Sandwich. Et ça marche avec plein de non-joueurs. Donc l'idée, c'est que chacun va avoir un certain nombre d'ingrédients dans sa main.
9 cartes au début, ouais.
Et à tous les tours, on va prendre un ingrédient, on va le poser sur la table. Tout le monde va retourner ses ingrédients en même temps. Et il va falloir qu'on aille piocher les ingrédients chez les autres. Donc ça peut être de la moutarde, ça peut être des moules, ça peut être du melon, ça peut être plein de choses diverses et variées.
Du beurre de cacahuète.
Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, on va avoir des ingrédients.
À la fin, on en récupère 9 cartes, du coup, comme ça.
Voilà. Et il va falloir faire 3 sandwichs avec 3 ingrédients.
Ouais, chacun aura 3 ingrédients et il faudra les proposer à ses 3 voisins.
3 voisins ?
Bah, 3 voisins vers la gauche. Bon, si c'est 3 et 4, c'est bon.
C'est ça. Et en fait, chacun, il va falloir quand même essayer de jauger un petit peu le goût de tout le monde et puis dire, bah, toi, tu aimes le sucré salé, donc je vais te donner ça. Toi, t'aimes les mères, donc je vais te donner ça, etc. etc.
Voilà, bah c'est un peu comme Gift Trap, on n'arrive pas toujours à offrir ce qui plaît à tout le monde.
Ah non, puis des fois, on fait des croix sur des bons sandwichs.
Ah, oui.
Mais c'est quand même fun, c'est rigolo. Ce qui est rigolo aussi, c'est de défendre un peu son beefsteak et de dire, non, c'est super bon ça.
Ouais, il faut.
Et la moule au beurre de cacahuète, c'est vachement bon.
Il y a plusieurs variantes sur la règle de jeu déjà, effectivement. Il y en a une où on doit vendre son sandwich quand on le donne à l'autre joueur. Et puis, il y a également, l'éditeur proposera... normalement plusieurs variantes dans les semaines qui viennent. Donc pour varier les plaisirs, par exemple, on doit faire exprès aussi de mettre les pires sandwichs. On doit faire les pires sandwichs.
Oui, ça c'est facile. Non, en fait, non,
c'est
pas
si facile que ça finalement. Les ingrédients sont assez traditionnels, mais sauf que des fois, ils vont pas ensemble. Mais...
Ouais, tu vas avoir jambon, fromage et je ne sais quoi. Et là, comment ça, tu m'as fait un sandwich jambon, fromage, mais c'est dégueu. Donc voilà, sandwich, c'est
une dizaine d'euros en plus.
Plein de gens et pas cher. C'est chez le joueur et n'hésitez pas, encore un, et achetez-le parce que ça vaut vraiment le coup. Dans le genre petite boîte, petit jeu, il y a Timeline aussi.
Ouais, Timeline, on en a parlé aussi souvent parce que c'est un jeu qui est simple dans sa règle et qui marche très bien. Il faut, en fait, les joueurs ont des cartes en main, donc il y a deux timelines qui existent, un sur les inventions, un sur les découvertes. Il y en a d'autres qui sont prévus. On pourra les mélanger ensemble en plus, des fois qu'on en veuille vraiment. Et l'idée, c'est que les joueurs ont 5 cartes en main en début de partie. Ils ne savent pas, en fait, ils ont devant eux des inventions, mais ils ne savent pas à quelle année elles ont été inventées. Et ils doivent les placer sur une échelle chronologique, une échelle de temps, qui va se constituer au fur et à mesure du jeu. Au début, il n'y a que deux deux inventions qui sont piochées dans les cartes non distribuées. Et donc, le joueur doit décider si sa montgolfière allait avant ou après l'invention de l'ouvre-boîte, par exemple.
Méfiez-vous, parce que l'ouvre-boîte...
C'est vieux.
Ça peut... c'est pas ça peut être vieux, en fait.
C'est pas si jeune que ça, voilà. Et on retrouve le soutien-gorge aussi, d'ailleurs.
Ah,
c'est pas quelle année. Ouais, ouais. Et tu ne saurais pas quelle année. Et...
Bah écoute, soutien-gorge, baleine. Baleine,
ouais.
Capitaine Nemo.
Ah, tu marches comme ça.
1700 et quelques.
Ah, ouais.
Moi, je dirais 17e siècle.
17e, d'accord, donc tu remontes en 1700.
Hein. Ouais, 1700. Ouais, ouais.
Ouais, on avait inventé déjà le caoutchouc et tout. Eh bien, non, pas du tout, c'est en 1800 et quelques. Donc,
bon, d'accord.
C'est pas bon. Voilà, donc dans ces cas-là, Olivier aurait perdu. Donc sa carte, il devrait en repiocher une autre. Le premier qui s'est débarrassé de ses 5 cartes a gagné. Donc c'est sympa parce que le jeu, en plus, comme je dis, il aura son côté extensible au fil du temps. Puisque pour l'instant, il n'y a que deux versions. Mais, enfin, donc il y a les inventions et les découvertes. Et avec le temps, ils en prévoient plein d'autres, les œuvres d'art.
Puis ça fait pas rejouable. Enfin, ça fait pas très rejouable quand on en parle comme ça. Mais il y a suffisamment de cartes dans la boîte de base pour qu'on fasse quelques parties sans retomber sur les mêmes.
Ouais.
Et même si on retombe sur certaines inventions dont on connaît la date. Il y en a forcément d'autres, on ne sait pas les placer, on ne sait pas si c'est avant ou après. C'est ça l'important en fait.
Oui, c'est avant ou après. Et quand on va les mélanger avec les découvertes, ça va être à nouveau la panique.
Donc, Timeline chez Asgard Edition, est-ce que c'est toujours non,
non
c'est chez Asmodée maintenant.
C'est chez Asmodée.
Chez Asmodée, vingtaine d'euros.
Entre 10 et 15 euros, ouais. Voilà pour.
Pour plein de joueurs.
Un à plein de joueurs. Enfin non, un, ça ne sert à rien. Pour deux à plein de joueurs.
Alors, je vais me faire un petit timeline. Non, mais ça se joue en solo aussi, c'est possible. Ça, c'est tout un tas de petits jeux, mais bon, vous avez parlé de Time's Up, ça marche aussi en version. Il y a plein de versions, la version mauve, la version.
Moi, je vous conseille un Time's Up, c'est la version Party. Time's Up Party.
Avec
la boîte orange qui a le buzzer, parce que le buzzer, il crée en plus de l'ambiance. Enfin, il est là pour en plus distraire les joueurs. Pendant qu'ils sont en train d'essayer de faire deviner, donc c'est très très sympa. Par contre, pensez à acheter des piles, c'est fourni sans piles.
C'est vrai ?
Ouais. Ah bah, ça a 20 euros, donc faut bien.
Rentabiliser.
Faut bien, ouais, ouais, faut bien. Voilà, il faut un prix canon, mais bon, en contrepartie, ils réduisent ailleurs les coûts.
Et puis, c'est. Notre dernier jeu, enfin, au bout d'une heure et demie. Donc le dernier jeu de cette sélection pour Noël 2011, pour les non-joueurs, et c'est certainement...
En couple ou pas,
c'est Compatibility. Compatibility, c'est très simple. Tous les joueurs ont un même nombre de... cartes, un même paquet de cartes,
ouais.
Avec des photos. Tout le monde a les mêmes photos. Et en fait, on va retourner un mot.
Ouais, un thème.
Et l'idée, ça va être de poser les 5 cartes.
Ouais, face
qui
à tellement...
correspondent.
En début, on commence avec 5 cartes.
Ouais. Oui, en fait. En fait, je cherchais, mais en fait, en fonction de son emplacement sur la piste de score, on va poser plus ou moins de cartes. Et en fait, on va poser des cartes et on va gagner des points de victoire en fonction de si on est en phase ou pas avec son partenaire. Donc si...
Voilà, c'est parce qu'Olivier ne l'a pas encore dit, mais on joue en fait par deux.
Par deux. Et parce que pour être compatible avec quelqu'un, il faut...
Chacun va jouer avec un partenaire pendant la partie.
Donc, par exemple, si le mot c'est peur, on va avoir par exemple le cri de Munch. Non.
Très bien, très bien. J'ai encore jamais fait de compatibilité avec toi. Je sens que ça promet si un jour d'en faire.
T'aurais mis la vieille dame.
Ouais, je sais pas.
Non,
moi, j'ai la vieille version. Plus
compatibilité, plus voilà, c'est un vieux jeu qui a été remis au goût du jour, complètement
très
nettoyé
bien même.
Par Cocktail Games et Istari. Donc, il y avait une vieille dame, enfin une vieille dame. Oui, il y avait une grand-mère.
Non, c'était Maïté. Elle faisait de la cuisine.
qui était une sorte de joker. Maintenant, il y a d'autres jokers, mais plus celle-là. Donc, un peu compatibilité, c'est très bien. Ça permet c'est pas un jeu d'expression, mais c'est un
ça
jeu.
Ça marche à fond. Parce que ce qui est marrant, c'est que des fois, on n'est pas compatible avec son partenaire, on met pas les cartes dans le bon sens. Mais on s'aperçoit que, l'autre personne là-bas au bout de la table, on a mis les mêmes choses sur les trois premières cartes. Donc après, on refait une partie, et puis on échange les groupes.
Là, tu fais ça, toi.
Ouais, on fait ça, nous, on fait de l'échangisme.
Oui, voilà. Ils savent pas ce que c'est qu'un soutien-gorge mais chez les Jérémy, mais voilà. Voilà. Donc, Compatibility, c'est 30-35 euros dans une boîte en métal. C'est sorti chez... C'est une coédition Cocktail Games Hystari. Et ça joue de 4 à 8 joueurs. Pour résumer, il y a plein de jeux pour les non-joueurs, qui sont en général les party games. Forcément, Time's Up, on n'a pas parlé de Dixit, mais c'est un très bon jeu aussi. Les petits jeux comme Double, Timeline ou Sandwich. Et puis, si vous avez envie de faire un cadeau avec une plus grosse boîte, ben, offrez incompatibilité. Et pour toi, qu'est-ce que tu veux pour Noël ?
Bah, j'ai déjà tout. Hein, si j'en ai un dans l'idée,
ouais.
C'est Détective Conseil, Sherlock Holmes.
Détective Conseil.
S'il arrive à temps, si les petits gars d'Hystari ont tout posté à temps, si l'éditeur travaille bien, les petits Chinois aussi. Non, il n'y a peut-être pas de Chinois dans l'affaire.
T'as des petits
si
Allemands.
Si Ludofac, ou je sais pas qui, ou les petits Allemands, ouais, travaillent bien et qu'il arrive à temps, je croise les doigts, peut-être qu'il sera au pied du sapin. Et toi, Olivier ?
Moi, je veux un meuble.
À part tes meubles.
Ouais.
Alors, le Père Noël n'existe pas, Olivier. Tout le monde a un budget max et des meubles à 5 000 $, même si le dollar est encore en dessous de l'euro. Ça fait encore cher, surtout avec la livraison.
Eh ben, écoute, je me contenterai d'un Détective Conseil. J'aime beaucoup ce jeu qui est tout à fait à part. Alors là, je saurais pas, tu vois, si on me dit dans quelle catégorie il se place, ben, je saurais pas te dire. Parce que c'est quand même, c'est une catégorie de jeu où c'est vraiment un jeu d'enquête et c'est compliqué, quoi.
C'est quand même compliqué, donc c'est quand même pas pour tout le monde.
Non.
Mais t'as déjà la version d'avant?
Alors,
je te refaire une demeure de l'épouvante.
Ouais, mais non.
Un jeu costaud qui te faisait de l'œil il y a quelques mois, finalement, non.
Ben, offre-moi.
Ça, c'est costaud quand même.
Non, offre-moi Gears of War dans ce cas-là.
Ah bon? Ah bah, c'est pas mal.
Bah, tant qu'à faire, un jeu costaud où il faut lancer des dés, bah, c'est
avec
ça.
Avec des biceps, ça.
Et puis, maintenant que j'ai goûté Elder Sign sur iPad, ça, c'est peut-être quelque chose que je m'offrirais parce que des jeux de dés comme ça, je sais pas.
Mais t'as déjà Ghost Stories avec Black Secret.
Ouais, mais c'est pas pareil. Voilà, donc bah écoutez, donc là vous avez tout pour faire plaisir, pour les petits enfants, pour la famille, pour les ados, pour vos parents, pour des passionnés. Forcément, il y en a plein d'autres des jeux, mais nous, si on avait à faire des cadeaux, bah ce serait ceux-là.
On piocherait là-dedans.
Voilà.
Donc évidemment, vous retrouverez tout ça sur notre site.
Donc, j'ai du boulot.
http://podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i, jeu au pluriel avec un x. Vous allez y retrouver bah, pas mal des visuels, mais peut-être pas tous de tous les jeux.
Non.
Voilà, mais au moins ils seront tous au moins que les noms.
Et puis des renvois. Alors je sais pas comment je vais faire parce que généralement je renvoie vers l'auteur. En général, je renvoie vers l'éditeur. Je verrai. De toute façon, je mettrai un prix indicatif. Il faut savoir que bah, vous aurez forcément des. Il y aura des promos, il y aura des choses comme ça. Donc le prix qu'on vous donne, c'est un prix indicatif. Et puis voilà. Enfin, faites jouer les enfants, faites jouer vos amis, faites jouer votre famille, et puis ça sera bien. Voilà. Et bien, on se retrouve dans une semaine maintenant pour un nouveau podcast actu. Alors, je vous le conseille parce que on a lâché un petit peu l'info sur Twitter. Donc, il faut nous suivre. C'est @proxyjeux. On va faire un concours. On va faire gagner une boîte de Steam Torpedo. Et puis une petite une tuile sous-marin bonus. Donc écoutez écoutez d'autant plus notre actu numéro 16. Et puis de toute façon, on va vous parler de ce jeu, on va vous parler de plein de choses. Ce sera encore bien sympa.
Si ce dossier vous a plu, que vous nous découvrez à travers ce dossier, sachez qu'on fait toutes les deux semaines un épisode d'actualité qui dure pareil à peu près une heure et demie. Qui vous parle de l'actualité du jeu de société sous toutes ses formes, plateau et également adaptation numérique.
Et si ce dossier vous a plu, ben sachez qu'il y en a d'autres. Donc allez fouiller parce que maintenant, il y a un certain nombre d'émissions en ligne, donc il ne faut pas hésiter à fouiller un peu. Eh bien Jérémy, à dans une semaine.
À dans une semaine Olivier.
Et puis, ben, cher auditeur, en attendant,
jouez bien.
Donc, Les Aventuriers du Rail, c'est édité par Des Wonders, un jeu de Alan Moore, pour 2 à 4 joueurs.
5. 2 à 5 joueurs.
2 à 5 joueurs. Yes. Et c'est pas Alan Moore, c'est Alan Moon.
Bien, on est prêt. Pour 8 ans et plus, on va la refaire.
Ouais.